This station is being brought to you via NOLSOFT Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Avez-vous localisé la base Rommel, capitaine?
Oui, Seigneur Vador. Nous avons repéré la fréquence de leur émission pirate, Star Wars en direct.
D'où émettent-ils?
Ils émettent depuis Hoth.
Changez de cap. Nous partons éliminer les Rommel. Personne ne se mettra sans trop.
Oui, mais les rebelles sont menés par un certain lunatique.
La force est puissante en lui.
Oui, alors, on l'abandonne?
Oui. C'est trop risqué. Nous prenons aucun risque.
Hi, my name is Peter Mayhew. I play Chewbacca on Star Wars, and you're listening to Star Wars on Direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars.
Plusieurs dossiers sur la saga.
Des événements et rencontres entre fans.
Un énorme forum de discussion.
Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct.
Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe.
Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Star Wars en direct est une présentation de SimpleNet. Avec SimpleNet, obtenez à moindre frais une vitrine publicitaire pour votre compagnie ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Et bienvenue à Star Wars avec la voix de la communauté francophone de Star Wars. Mon nom est Lunatique et je suis en compagnie de GGM Real Mutez, comme à l'habitude.
Bonjour tout le monde.
Et je me remets d'une petite grippe, donc si vous m'entendez tousser de temps à autre, c'est possible, je m'en excuse. Tout le monde passe par là éventuellement.
C'est quand même mieux que moi qui, quand j'ai eu la mienne, je pouvais faire des imitations de l'amiral Akbar sans aucune difficulté.
Exactement. Donc, pour les femmes qui m'écoutent, si vous attendez ma voix sexy, là, c'est que j'ai un peu mal à la gorge. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à l'horaire? On a évidemment le sujet principal qui est Star Wars vs. Star Trek. Sans faire la guerre ici, on va juste essayer de comparer un peu les deux sagas. Comme sujet secondaire, on va discuter rapidement de StarWarsShop.com et puis des changements au fan club nord-américain, j'entends bien ici, parce qu'en France, ça n'a pas changé vraiment.
Je pense pas qu'ils ont refusé des
inscriptions.
Exactement.
Ensuite, comme on a rejoint, évidemment, si vous voulez qu'on vous appelle, contactez-nous par MSN Messenger. À sw@hotmail.com et vous nous envoyez votre numéro de téléphone et on se fera un plaisir de vous appeler si vous avez des commentaires. Par email à studio@sw.com. Vous pouvez évidemment nous voir sur la merveilleuse webcam sur le site officiel de Star Wars en direct www.sw.com. Évidemment, ce soir, on a une émission en anglais. Et c'est le même sujet, carrément. Star Wars vs. Star Trek.
Exact. Avec un petit extra qui est quand même une entrevue oui. Avec Denis Pizzeruara, le directeur de Star Wars,
documentaire. En français, on dit-tu le directeur? Director.
Le producteur. Le
producteur, oui, j'imagine. Mais c'est réalisateur, producteur.
C'est ça.
Enfin.
Un des gars qui a fait le documentaire.
Exactement. Puis juste avant de passer à la première pause, on a été voir la semaine dernière en avant-première un film intitulé Taking Lives. En français, c'est le preneur de vie ou je sais pas trop.
Moi, dire très franchement, j'ai pas regardé le titre en français.
Le voleur de vie, je crois.
Le voleur de vie.
Enfin. Alors, on vous parle de ce film-là tout simplement parce qu'il a été tourné à Montréal. Ce qui n'est pas nécessairement exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de films maintenant qui sont tournés à Montréal. Cependant,
ce qui est exceptionnel,
c'est ça.
C'est que le Château Frontenac est à Montréal et que autant Québec que Montréal sont à 20 minutes en hélicoptère de
Halifax.
Halifax.
Non.
Tout un record.
Pour démêler les Européens ici, là, c'est que le film se passe en effet à Montréal. L'histoire se déroule à Montréal dans l'histoire. Donc, vous avez. Il y a un peu de francophone. Vous entendez la radio de police, ça parle en francophone. Tu as deux acteurs français qui font des policiers québécois. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris des Québécois au lieu de prendre des acteurs français. Enfin. Et puis, c'est un film avec Angelina Jolie. Et puis, ça a été tourné dans la ville de Montréal et de Québec. Et sauf qu'il y a beaucoup de scènes à Québec qui ont été tournés à Québec, qui se situent à Montréal. Donc, ils ont pris les deux villes pour faire Montréal.
C'est ça.
Donc, le Château Frontenac, pour ceux qui connaissent moins le Québec, le Château Frontenac, les grands hôtels avec un toit vert, un cuivre usé, un cuivre qui est vert de gris. Vert de gris. Bon, ce n'est pas à Montréal, mais bien à Québec, mais peu importe. L'histoire est assez ordinaire, mais t'as quand même un petit suspense. Là. Ça peut être intéressant à voir pour les gens qui veulent voir un petit peu Montréal, même si ça se passe surtout la nuit. Là.
Le voleur de vie en France.
Le voleur de vie. Exactement. Donc, c'est l'histoire, ben, c'est un tueur en série qui tue et puis prend l'identité de la personne qui le tue parce qu'il trouve sa vie ennuyante, quoi.
C'est ça. Fait qu'il fait juste, au lieu de changer lui-même sa vie, il prend carrément la vie de quelqu'un
d'autre.
C'est ça.
Il le tue, il défonce le visage même.
Ah, pour que ça soit plus
reconnaissable. Pour que la personne soit reconnaissable, il prend l'identité de l'autre personne. Mais il fait ça depuis une dizaine, vingtaine d'années dans le film.
Exact.
Et puis là, ils font. Comment dire, ils demandent à une inspectrice du FBI.
C'est une profiler.
Okay.
En anglais, du FBI. Donc, c'est.
Une portraitiste?
Non, ouais, ben, pas. Quelque chose comme ça, en fait. Uh-huh. C'est quelqu'un qui se trouve à trouver le chemin, trouver les idéologies derrière le tueur en tant que tel.
Une analyste psychologique.
Exact.
Peu importe. Enfin, elle est du FBI et c'est Angelina Jolie qui joue ce rôle. Et elle s'en vient au Québec pour essayer de découvrir le meurtrier.
Pour régler le...
T'as Kiefer Sutherland qui est un rôle secondaire, vraiment secondaire.
Très secondaire.
Très secondaire. Oui. Angelina Jolie qui a le premier rôle et Ethan Hawke. Qui joue très bon jeu d'acteur dans ce film-là, je trouve.
Tout à fait.
Alors voilà, c'était notre petite critique rapide. Maintenant, on va aller à la pause avec Linkin Park, avec la chanson Nom du dernier album Meteor Rock. Donc, on revient après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
De Georges et vous êtes sur Star Wars en direct.
Et on est de retour en onde à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. C'était Sébastien qui est tordu de rire.
Raven qui, comme toujours, se surpasse dans ses montages audio.
C'était la petite ligne de promo de Jim de Georges le film. Alors, on est rendu à la portion spoiler.
Oui.
Chronique hyper-espace. Donc, comment ça fonctionne?
La chronique hyper-espace va aujourd'hui durer une grande durée de 15 minutes à partir du moment où on fait le top chrono. Évidemment, on vous demande de ne pas discuter de hyper-espace, pardon, dans la première salle de chat sur StarWarsEnDirect.com. Évidemment, vous pouvez le faire dans My Room 1. Et à cet endroit, on va vous donner d'ailleurs un lien vers la fin de la chronique pour une exclusivité Star Wars en direct très spéciale. Aussi, ce qu'on vous dit, on vous demande de le garder pour vous et de ne pas le diffuser sur des forums qui ne sont pas avec des spoilers ouverts. Et si vous désirez le parler, il existe déjà plusieurs forums avec des spoilers sur Internet, dont ceux de Citlan.net.
Exactement. Donc, vous baisserez le volume dès qu'on vous le signalera dans le chat.
Dans
ceux qui veulent, ne veulent rien savoir.
Dans 5, 4, 3, 2, 1. Top chrono serveur.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Cette chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Et nous voici de retour donc à Star Wars en direct avec la chronique Hyperespace. Évidemment, on vous parle des nouvelles des deux dernières semaines. Donc, du lundi 15 mars jusqu'à cette semaine. Alors, le lundi 15 mars, on a réussi à... Enfin, tout le monde a pu réussir à voir le deuxième documentaire web de l'épisode 3 intitulé « Un monde, deux films ». « One World, Two Movies ». Il était disponible sur le, il est maintenant disponible sur le site officiel pour tout le monde à voir. Le 15 mars...
Je m'en souviens même pas.
Le 15 mars, ce qu'on a aussi appris, c'est que dans le prochain Star Wars Insiders, le Star Wars Insiders numéro 75, on va avoir plus de détails sur le fameux général Grievous. C'est une créature qui s'est reconstruite en droïde, ou un droïde qui a intégré des parties organiques pour tenter d'être véritablement vivant. Qui se demandait Warren Fu, un des artistes concepteurs qui a aidé à visualiser le général Grievous, le mystérieux nouveau vilain de l'épisode 3. Alors, il est décrit comme étant d'une cadence mécanique, mais le nouveau style de Grievous est devenu un icône de la méchanceté. Il a développé un sens de vanité, il est fier de son look, dit Barnes, qui est Robert Barnes, qui est la base sur la dernière sculpture de la maquette. Il considère la mécanique comme la vraie idée, alors qu'il s'est refait à travers le temps. Donc il s'est lui-même amélioré un petit...
Attends ça. D'ailleurs, je vais en parler des nouvelles diverses. Il y a je vais vous parler d'un roman qui va paraître, qui probablement on va voir d'où vient Grievous.
Génial.
On a un roman des Clone Wars qui s'en vient.
Alors, aussi les dernières, je vais te laisser t'en parler. On va en entendre parler dans les HoloNet News, évidemment, sur le Star Wars Insider, mais vous allez aussi en entendre parler dans le roman que Danny vous présentera tout à l'heure.
Ouais. Bon, imagine, c'est seulement une supposition ici, là.
Alors, le prochain Insider contiendra aussi un article sur les femmes de Star Wars avec une entrevue avec l'actrice Keira Knightley. Il y a aussi un qui est qui dans le club de Coruscant. Et dans le numéro du Star Wars Insiders, on va nous montrer les origines du Faucon Millennium.
Oh mon Dieu!
Scan des sculptures du Gentle Giant, ainsi qu'une courte histoire écrite par nos chers amis australiens Sean Williams et Shane Dix.
Intéressant.
Qui mettra en vedette nul autre que Jaina Solo.
Donc une autre occasion de les contacter.
Exactement. Et je crois que je connais très bien d'ailleurs quelqu'un qui va être très heureuse de recevoir son Insider 75. Il va être envoyé au fan club, aux membres du fan club le 19 mars prochain.
Nord-Amérique, bien sûr.
Disponible en kiosque le 6 avril, exactement. Et évidemment, on sait très bien qu'il s'est envoyé le 19 mars sur la côte ouest. Alors, on va le recevoir environ un mois plus tard sur la côte est. Malheureusement. Le 17 mars, on a fait un petit résumé des nouvelles qui circulent présentement à Hollywood sur le sujet de l'épisode 3. Il y a 3 minutes d'extrait rapide de l'épisode 3 qui ont été montrés en 2 segments aux gens impliqués dans les projets reliés à l'épisode 3. La majorité des scènes montrent Anakin et Obi-Wan dans un duel féroce. Dans un extrait, on voit Aiden qui a un regard très méchant. Les gens vont adorer.
Ça fait marketing vidéo pas mal, hein?
Ça nous rappelle la vidéo du marketing, effectivement. C'est quand même quelque chose qui va être à voir, je crois. Là. Je crois qu'on peut pas nier ce fait. Absolument pas. Une autre scène qui montre une statue sans tête d'un Jedi. Cette scène semble être dans le temple Jedi. Donc, c'est peut-être Anakin qui décide de tout détruire ce qu'il voit. George aime bien l'idée d'un jeu vidéo de l'épisode 3 dans lequel les joueurs pourraient être Darth Vader. Donc, il pourrait mieux comprendre l'humanité parce que George explique comment une personne perd son humanité lorsqu'elle gagne du pouvoir. Des éléments de l'épisode 3 se concentrent sur ce conflit dans le monde d'Anakin. Et je crois que George Lucas est très bien placé pour comprendre cette perte d'humanité-là, étant donné tout le pouvoir qu'il a gagné dans les quelques dernières années. Un autre extrait du vidéo de 2 secondes et demie montre un plan rapide de la bataille spatiale où un énorme croiseur est sectionné en deux. Donc, ça confirme un peu ce qu'on disait depuis quelques mois, qu'il va effectivement y avoir un croiseur spatial qui va exploser en deux et qu'on va voir des clone troopers se faire aspirer dans le vide de l'espace. Les Wookiees vont être plus gros que Chewbacca et seront couverts d'armure. Alors, attention, vous pourriez vous faire épiler en certains endroits. La bataille épique à la fin du jeu Republic Commando se déroule sur Kashyyyk avec les Wookiees et les soldats clones versus le général Grievous et les esclaves Trandoshan. On devrait voir un extrait de cette bataille dans l'épisode 3 très rapidement. Donc, ça va être c'est encore une façon, on voit du marketing, de bien tout lier des histoires, mais comme le disait Pablo Hidalgo dans sa foire aux questions, c'est que oui, si vous lisez ce qu'il y a dans l'univers étendu, il n'y a pas de problème, vous allez être capable de suivre l'histoire, mais si vous lisez, vous allez être encore plus capable de suivre l'histoire. Le 18 mars dernier, le site officiel a mis en ligne une nouvelle image Before the Helmet. Alors, il s'agissait du sénateur Fang Zhang, joué par Warren Owens. L'image s'intitule An Unhooded Fang, un Fang qui n'a plus de capuche. Et le texte accompagne l'image et le sénateur loyaliste Fang Zhang est un des politiciens concernés par la montée des pouvoirs exécutifs ainsi que les actions au Sénat de Palpatine. Petit écho dans le verre. Donc, cette image, en fait, si vous voulez vous la visualiser, vous pouvez chercher une image de Osama Ben Laden sur Internet et puis je pense que c'est une très bonne
chose. Turban sur la tête.
Exact. Ça ressemble un peu, là. Ou même l'image de Saddam Hussein quand il s'est fait arrêter, exactement. La première bande-annonce qui paraîtrait, selon une rumeur, pas en novembre, mais bien au mois de mai, le week-end du Memorial Day. Ben, on va en reparler un petit peu plus tard, parce que Pablo Hidalgo nous en a parlé dans sa dernière foire aux questions.
D'accord.
Une autre rumeur concernant le titre de l'épisode 3 est sortie. Alors, un costaud à Santa Cruz a fait jouer un teaser très primitif de l'épisode 3. La description indique que l'on entend Vader respirer, puis ensuite un plan d'Anakin suivi du casque de Vader. Il y a ensuite le son d'un sabre laser et une grosse ligne rouge apparaît en bas de l'écran. Le titre était Rise of the Empire. De plus,
j'aimerais bien ce titre.
De plus, TheForce.net a reçu plusieurs emails d'un ami d'un ami, mentionnant que le travail promotionnel du film avait débuté et que le titre était bien Rise of the Empire. Est-ce vrai? Sûrement pas, selon notre ami Dark Jedi. Je vais dire très franchement, je vais y aller avec l'option Return of the Jedi, avec le titre Revenge et puis le Blue Harvest qui était auparavant. Pour un titre de production, Rise of the Empire fait très bien l'affaire. Rise of the Empire serait le titre de l'épisode 3, je ne serais pas déçu. Mais
comparativement à l'autre que tu risques de mentionner,
l'autre que je vais mentionner un petit peu plus loin. Et voilà. Le synopsis officiel de l'épisode 3 est sorti le 20 mars dernier sur le site officiel, dans la ligne du temps de la section Clone Wars. On peut retrouver le synopsis officiel tel qu'il suit. Après 3 ans de bataille acharnée, la guerre des clones tire à sa fin. Le Conseil Jedi envoie Obi-Wan Kenobi pour ramener le chef mortel de l'armée des séparatistes. Pendant ce temps, le chancelier Palpatine a obtenu plus de pouvoir. Ses changements politiques transforment la République fragile en puissant empire galactique à son plus fidèle allié. Anakin Skywalker, Palpatine, révèle la vraie nature du pouvoir et il promet des secrets de la Force dans une tentative de l'attirer vers le côté obscur. L'affiche confirme aussi que l'épisode 3 se déroule 3 ans après Attack of the Clones. On peut voir que les spoilers dévoilés dans les derniers mois sont dans la même ligne que le synopsis officiel. Ça reste quand même assez vrai. Mais on va en reparler un petit peu plus tard parce qu'il y a un léger détail par rapport à Palpatine et Anakin qui est dévoilé dans ce synopsis-là qui n'est pas nécessairement vrai selon Pablo Hidalgo.
Okay.
Le retour d'une Jedi. Alors, apparemment, l'actrice Amy Allen s'est inscrite sur la liste des acteurs de l'épisode 3 et elle reprendra donc son rôle de Ayla Secura. C'est le site officiel qui nous l'a dit.
La très jolie
Twi'lek. Il y a d'ailleurs une histoire très sombre que je vous conseille de lire en achetant
les BD,
les bandes dessinées de Dark Horse Comics. Alors, la fameuse foire aux questions de Pablo Hidalgo, qui a été mise à jour le 24 mars dernier. Il y a 3 plans terminés par ILM dans le prochain Insider. Cependant, ils ne sont sûrement pas ce que nous avons en tête. Le titre « The Creeping Fear » n'est qu'une simple rumeur.
J'espère.
Qui est un titre qui avait été mentionné justement. Et c'est effectivement un titre très mauvais. Et Pablo Hidalgo a confirmé que ce n'était qu'une rumeur.
C'est aussi digne que « The Phantom Menace », c'est assez mauvais.
Temuera Morrison va jouer tous les clones qui ont des noms. Les autres seront joués par Buddy Taylor. Nous allons en connaître plus sur Palpatine et son origine d'ici l'épisode 3. Certains faits seront expliqués dans l'épisode 3 seulement, par contre.
Oh, ça veut dire Expanded Universe.
Exactement. Mais pas des choses qui sont extrêmement nécessaires, sauf que ça va mieux vous faire comprendre. Il y a des moments où George n'est pas totalement satisfait avec certaines scènes, mais malheureusement, à cause du temps, il ne peut les travailler plus. Pour l'instant, je suis sûr que notre cher
ami... La prélogie Special Edition.
Non, je suis sûr que notre cher ami Rick McCollum va être capable de tirer les cordes de ses animateurs et qu'ils vont finir facilement un bon 30 jours avant la date prévue et puis qu'ils vont pouvoir tout rééditer les scènes que oui, George voulait rééditer. Vas-y, Rick, t'es capable. Ken Burns ne fait pas un documentaire pour le coffret DVD de la trilogie classique. Le montage de la guerre des clones mentionné dans la discussion avec Ryan Church est toujours dans le film, mais il y a eu quelques petits changements. Alors, on se souvient que Anakin dans Attack of the Clones se demandait pourquoi il n'était pas encore un chevalier Jedi. Le jeune chevalier Jedi dans l'épisode 3 maintenant se demande pourquoi il n'est pas encore un maître Jedi.
Mais là,
donc on comprend son impatience quand même. Le synopsis de l'épisode 3 dans la ligne du temps de la guerre des clones, ce que je disais tout à l'heure, sur le site officiel, donne un bon résumé de l'histoire, excepté la fin. Lorsqu'il est indiqué que Palpatine révèle la vraie nature du pouvoir, il promet des secrets de la force dans une tentative de l'attirer vers le côté obscur. Nous savons que Palpatine va réussir. Donc, c'était simplement une confirmation. Alors, Anakin est devenu comme une star rock dans la guerre des clones, il est une légende. Il n'y aura pas de bande-annonce au mois de mai, qu'il nous le confirme. Le rôle de Ayla Secura est comme son rôle dans Attack of the Clone, bref, on la voit quelques secondes seulement. Durant la bataille spatiale au début du film, on ne voit pas l'intérieur des vaisseaux de la République, malheureusement. Par contre, on les voit de l'extérieur qui explosent, qui se cassent en deux et des clones qui se font attirer, ouais, qui ça. Les voient de l'extérieur.
Bon, on risque d'aller voir un petit peu une fraction de seconde de l'intérieur puisqu'on va avoir la perspective des. D'un clone. Théoriquement.
Les gardes du corps du général Grievous n'ont pas de nom. Jimmy Smith n'a pas filmé de scène pour l'épisode 4. Quelle bonne nouvelle! Contrairement à certaines rumeurs, l'armure de Vader ne va pas provenir de 3 personnages que nous allons voir dans l'épisode 3. Il n'y a pas d'Holocron Jedi dans l'épisode 3 et Adi Gallia ne sera pas dans le film. Va-t-elle se faire tuer d'ici là? Seul l'avenir nous le dira.
Peut-être.
Alors, nous avons eu droit le 25 mars à une autre image Before the Hellnet qui montrait le cascadeur Kyle Rowling complètement vêtu de bleu sur une plateforme d'atterrissage. C'est lui qui a fait le général Grievous dans les scènes d'action lors du tournage l'été dernier. L'image s'intitule A General Alert. Et le 26 mars, vendredi dernier, nous avons eu la merveilleuse chance de voir plusieurs images de l'épisode 3, dont des images de concept du général Grievous. Palmer, une assistante dans sa capsule au Sénat, des techniciens qui travaillent sur certaines choses, un technicien qui travaille sur l'intérieur d'un vaisseau, Hayden Christensen qui se repose entre deux prises lors du tournage du duel avec Obi-Wan, et on voit bien son sabre dans cette photo-là, c'est bien intéressant. Nick Giller, George Lucas et Hayden Christensen.
Qui est rouge, mais ça veut rien dire. Mais
non, en fait, les couleurs, le rouge sur le fond vert, c'est vraiment pour aider les animateurs. Plus qu'autre chose, même Obi-Wan...
Mais on voit qu'il y a le même sabre que celui que Obi-Wan donnait à Luke.
Ouais. Exact. On voit aussi au corridor d'un croiseur séparatiste la sénatrice Mon Mothma dans le bureau d'un compatriote, le sénateur Bail Organa. Bail Organa dans son bureau. Le sénateur Fangzar, encore une fois, qui refait un retour. Obi-Wan qui a le poids de la galaxie sur ses épaules. Un autre concept du général Grievous. Et encore un autre. Hayden Christensen, Ewan McGregor et Ian McDiarmid qui sont ensemble. Et le sabre d'Anakin lors du duel. Et voici qui conclut donc la chronique hyperespace.
Donc on va indiquer tout ça dans le chat. Spoiler off. Moi, je peux pas faire deux choses en même temps.
Il n'y a pas de problème. Alors voilà.
Alors voilà. Donc, on va aller immédiatement à une petite transition et on revient immédiatement. Et nous voilà de retour à Star Wars en direct. Maintenant, les nouvelles diverses de Star Wars. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les deux dernières semaines, outre les nouvelles de l'épisode 3? Pardon. Donc, on va débuter avec le jeu de rôle. On n'en parle pas très souvent. Wizard of the Coast. Concernant les séries de mini-figurines depuis longtemps annoncées. Voilà plus de... on a maintenant plus de détails sur les produits. Donc, dès juillet, il va y avoir le Starter Set, Rebel Storm. Le Starter Set, c'est le kit de base, si on peut dire, le jeu de base, qui sera au prix de 20$ US, qui va comprendre 10 figurines, dont 2 rares exclusives et 2 non communes, et 6 communes, un livret de règles, une grille de bataille et les cartes de terrain. En juillet aussi, il va y avoir les boosters, c'est les d'autres sachets que tu peux acheter, qui est pour 13$, qui comprennent 7 figurines, dont une rare ou très rare, 2 non communes et 4 communes. Et puis, la grosse expansion va être en novembre, avec l'extension Clone Strike, qui va comprendre 60 figurines provenant de l'épisode 1 et 2, plus des exclusivités de l'épisode 3. Ça va être très... je pense que je vais m'en acheter de ça. aussi, un troisième guide de jeu de rôle a été annoncé pour 2004. Il s'intitulera Ultimate Battle Station. Rodney Thompson en sera l'auteur principal et il sera assisté par Owen Casey Stephen et Brian Campbell. C'est là une excellente nouvelle car les trois auteurs sont des vétérans de l'écriture de guides de jeu de rôle. Donc on peut facilement inclure les deux Death Star et puis les Battle Station. J'essaie d'imaginer d'autres Battle Station dans Star Wars. Des Battle Station en français, comment tu dirais ça?
Des bases spatiales?
Des bases spatiales, des stations spatiales.
Ouais. De
grandes envergures, ouais, c'est ça. Enfin, ça a été révélé par StarWarsRPGNetwork.com. Maintenant, côté jeux vidéo, j'ai pas parlé beaucoup de Battlefront ou Republic Commando parce que qu'est-ce qui sort surtout, c'est des images, des screenshots, donc c'est un peu moins intéressant pour nous à la radio. Donc, le Xbox Magazine a rapporté que le démo de Battlefront sera peut-être disponible avec les DVD de la trilogie originale qui sortira le 21 septembre. Cela est possible car le jeu correspond à la trilogie et quelque chose de semblable avait été fait pour la sortie du DVD de l'épisode 1, le making-of du jeu. Ça, je me souviens pas.
Le making-of du jeu.
Probablement du jeu de l'épisode 1.
Qui était pas impossible qu'il y avait effectivement.
Je m'en souviens pas du tout, par exemple.
Un court petite featurette, ouais, comme on dit, un petit documentaire très court.
C'est peut-être de ça qu'il parle, peut-être pas un démo jouable, peut-être, enfin. Aussi, c'est le 4 et 5 juin 2004 à Anaheim, en Californie, que le premier festival de fans Star Wars Galaxy aura lieu. Il s'intitule le Star Wars Galaxy's Fan Fest. Le prix d'admission est de 89$ US. Et inclut la réception le vendredi soir, le souper banquet le samedi soir. Il y aura 2 jours de forum, de panels, de concours et du temps pour rencontrer l'équipe de développement. Ils présenteront également les derniers développements pour la première expansion spatiale, l'un des soirs de l'événement. Les détails complets et l'agenda ne sont pas encore finalisés, mais je suis certain que cet événement vaudra bien le prix d'admission pour les gens présents. Donc c'est le Star Wars Celebration, mais pour Star Wars Galaxies.
Right. Un gros LAN party dans le fond là.
Ben je pense pas que c'est nécessairement fait pour jouer, c'est pour rencontrer d'autres joueurs.
Ça va être vraiment comme pour faire les demandes en mariage officielles.
Ouais, exactement. Bon, je vous parlais dans la chronique Hyperspace pour ceux qui nous écoutaient. Je vous parlais d'une mention d'un méchant possible dans l'épisode 3. On verrait peut-être comment il est créé. Donc, je vous lis le nouveau résumé, le nouveau synopsis de Sestus Deception qui sort en magasin en juin prochain, qui est un roman de la guerre des clones.
Donc, Bactoid Armor tente de mettre au point un nouveau type de droïde de combat très spécial, moitié machine, moitié organique, avec le contrôle de la force.
Oh, attention.
Et la République est déterminée à les empêcher. Pour cela, elle envoie Obi-Wan Kenobi sur la planète Orcestus, où se situe l'usine qui fabrique ses droïdes. Sa mission est diplomatique. Mais si la diplomatie ne marche pas, il devra user de tous les moyens dont dispose les Jedi pour contrer cette nouvelle arme potentielle très dangereuse entre les mains ennemies. Mais la diplomatie ne marche pas. Quelque chose de mystérieux tire les ficelles de la fabrication de ces droïdes.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce qu'on disait dans la chronique hyperespace? Je pense que ça va être, il va y avoir des choses expliquées là-dedans. N'est-ce
ça
pas?
Va être intéressant. Pour revenir d'ailleurs sur la chronique hyperespace, ceux qui veulent un petit cadeau lié au Clone Wars, on vous invite à aller faire un tour dans My Room 2. C'est une exclusivité de Star Wars en direct et on ne peut en dire plus en onde.
Donc, on continue. Le site officiel vient d'annoncer l'équipe responsable de l'adaptation comics de l'épisode 3 qui sera disponible à la même période que la sortie du film par Dark Horse. Pour l'adaptation de l'histoire et du scénario de George Lucas, Lucasfilm fait confiance à Miles Lane. C'est Doug Wheatler qui s'occupera des dessins de cette adaptation. Wheatler est celui qui a dessiné l'histoire Darklighter dans la série Star Wars Empire. Un très bon choix. Ensuite, le roman de la guerre des clones écrit par Sean Stewart qui met en vedette Yoda.
Woohoo!
A maintenant un titre, Dark Rendezvous,
ainsi qu'une couverture.
Eh oui, le roman qui se déroule immédiatement après les événements de Jedi Trials, qui raconte justement l'épreuve d'Anakin, comment il devient un chevalier Jedi,
voilà,
devrait paraître en décembre 2004, donc bientôt.
J'ai l'impression que ça va être quand même prématuré, cette promotion,
ouais,
à chevalier Jedi.
Et puis pour finir la portion littérature, jeudi dernier, le roman NGO Traître, la version française de Traitor, est enfin sorti chez Fleuve Noir. Donc ça fait un an.
Même. Donc nos compagnons francophones vont pouvoir enfin lire et suivre l'histoire.
Un des meilleurs romans parus dans toute la collection de romans Star Wars existants.
Tout à fait. Est-ce que c'est d'ailleurs dans ce roman, pour venir rapidement sur un peut-être futur sujet de Star Wars en direct, dont dans lequel Luke Skywalker rencontre les politiciens et se fait faire un peu la morale?
Je ne me souviens pas de ça. Cette histoire est surtout, on s'appelle surtout de cette histoire par l'explication de Vergère à Jason du nouveau concept de la force.
D'accord.
Mais c'est pas impossible
que ça soit dans le même livre.
Ouais. Ah, que Luke se fait dire la morale par Vergère, possiblement.
Pas par Vergère, par le politicien.
Je ne crois pas que c'est dans celle-là.
C'est dans un
c'est
autre.
C'est plus tard. Ouais.
Dans un autre. C'est pas grave.
Maintenant, côté collection, StarWarsShop.com semble avoir la satisfaction de sa clientèle. semble avoir la satisfaction de sa clientèle à l'œil, malgré ses problèmes techniques. En effet, l'équipe du site tenterait de mettre en place un plan qui permettrait aux clients infortunés qui ont vu leur transaction annulée le 10 mars dernier de conserver la priorité sur les commandes d'articles exclusifs au tirage limité tels que les bustes du Clone Trooper vert, le cinéma cast de Darth Vader et la figurine Kermit Adventures. Pour l'instant, cependant, l'équipe technique est encore incapable de dire quand le site réouvrira ses portes.
Exactement.
Donc, si vous avez fait des transactions, n'ayez pas peur, tout sera conservé. Ensuite, tel qu'annoncé plus tôt cette année, la compagnie Master Replicas mettra en vente très bientôt un blouson FX de Star Wars. Loin d'être un banal blouson, ce vêtement est très spécial et muni dans son dos d'une image à effets spéciaux. En effet, sur la simple pesée d'un bouton, une image très célèbre de Star Wars tirée du film A New Hope, la chasse d'un X-Wing fighter par un TIE fighter sur un fond étoilé avec la Death Star, sera en effet animée tel un segment vidéo d'une durée de 25 secondes par 20 diodes, elle-même alimentée par un réseau de plus de 2100 fibres optiques. J'ai vu une animation vidéo de ça, c'est assez hallucinant, merci.
Mais on peut référer l'introduction, dans le fond, de tous les fanfilms qui sont sur TFM,
oui,
sur TFM et sur fanfilms.com, qui est un petit peu dans le même genre.
Ça, sauf que c'est ça, le X-Wing et le TIE sont fixes. Ils tirent des lasers, tu as les étoiles qui se déplacent et tu vois la Death Star en arrière-plan. Les quantités sont limitées à 750 exemplaires dans le monde entier et en dépit de son prix qui est 350 $ US, qui peut sembler élevé pour certaines bourses, il est fort à parier que les stocks ne dureront pas longtemps. Le produit sera mis en vente directement sur le site Master Replica en primeur le 25 mars, donc jeudi dernier, pour les clients membres et plus tard pour tous les clients. Maintenant, aussi Master Replica mettra aussi en vente des Rebel Blasters. L'annonce d'un Stormtrooper Blaster et de Princess Leia Blaster de A New Hope avait été faite au dernier Toy Fair, mais cet item avait été oublié, le Rebel Blaster, celui qu'on voit dans les premières scènes de A New Hope, quand les Dark Vader, quand les Stormtroopers attaquent le Tantive IV, et tu vois les armes brandies par les rebelles. Pour les amateurs de Lego, le site officiel de Lego.com vient de lancer un sondage Internet pour aider à déterminer là où les prochaines exclusivités offertes sur leur site Shop at Home. Le sondage vous permet de choisir parmi une liste de choix prédéterminés ou alors d'en ajouter à votre guise. Les choix pour la section Star Wars sont notamment un Sandcrawler, la Death Star, Tatooine, un village Ewok ou une sculpture de Clone Trooper. Mais libre à vous d'en ajouter d'autres si vous le désirez. À noter aussi que les choix vous permettent aussi de sélectionner d'autres lignes très populaires, vieilles ou récentes. Par exemple, la ligne des Classic Space, très populaire pour les vieux de la vieille comme moi, est disponible dans la section automatique. Pour ceux qui ont mon âge, probablement les premiers Lego, les vaisseaux bleus et gris, ils vont probablement faire des rééditions de ces vieux vaisseaux-là. C'est assez trippant. On les avait tous, moi et Raven.
Ben, je me souviens, même moi j'en ai eu quelques-uns dans les premières éditions d'espace Lego, là. Ouais. De très bons souvenirs. Exactement. Avec la petite planète et le petit vaisseau qui tourne autour.
Maintenant, pour le DVD de la trilogie originale, on a quelques informations. Et oui, encore une autre nouvelle sur la version des films qui sera disponible sur le coffret DVD de la trilogie classique. Cette fois-ci, c'est le site de digitalbits.com qui mentionne que Lucasfilm et Fox préparent des changements pour les films qui seront disponibles en DVD au mois de septembre. Là, je mentionne ce qu'ils ont dit. Nous pouvons dire avec confiance que lorsque Lucasfilm et Fox sortiront la trilogie classique sur DVD en septembre, les films vont inclure des nouvelles scènes. Nous avons confirmé non officiellement de 3 sources fiables différentes que quelques nouvelles scènes seront ajoutées au film ainsi qu'un ajustement aux effets spéciaux. De plus, Lucasfilm pourrait ajouter des scènes inédites pour la trilogie sur le disque Bonnie, séparé du matériel ajouté au film comme pour l'épisode 1 et 2. Nous connaissons quelques changements qui seront faits, mais nous voulons confirmer davantage avant de les mentionner. Nous ne savons pas si les changements sont énormes ou pas, en espérant en connaître davantage de la part de Lucasfilm très bientôt.
Ben moi, c'est pas très compliqué, hein. J'aimerais juste ça qu'on puisse les rajouter dans la version longue du film.
Maintenant, le site officiel a affiché aussi les images du coffret DVD de la trilogie classique qui sera disponible le 21 septembre. Le coffret ressemble beaucoup à celui de la sortie VHS des éditions spéciales en 1997. Le coffret a 2 couleurs, argent pour la version panoramique widescreen et doré pour la version plein écran, full screen. D'un côté du coffret, on voit le casque de Darth Vader en profil et de l'autre côté du coffret, on voit le logo de la trilogie édition spéciale de 1997. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre les images, mais on peut les mettre, sont maintenant disponibles. C'était un copier-coller de cette lampe. Bon. Aussi, le magazine Variety, ok, c'est parce qu'il est mal écrit, indique que le producteur Kevin Burns a été choisi par Lucasfilm pour produire le documentaire qui se retrouvera sur le coffret DVD de la trilogie classique. Le documentaire de plus de 2 heures sera dans la même veine que Cléopatra de film, That Changed Hollywood et Marilyn Monroe de Final Days. Plus de détails dans les prochaines semaines.
Malheureusement, tel qu'on le disait durant le segment Hyperespace, Pablo Hidalgo a nié
que c'est lui qui faisait.
Alors, il n'y aura pas de documentaire spécial fait par Ken Burns pour le coffret DVD de la trilogie classique.
Bon, j'ai mal fait mes recherches.
Non, c'est pas de ta faute. T'as très bien fait tes recherches, c'est des nouvelles diverses.
Donc, Clone War maintenant, la saison 2 de la série Clone Wars a débuté ce vendredi pour les États-Unis. Et lundi dernier au Canada, c'est Clan.net a eu la chance d'obtenir une copie de ces deux premiers épisodes et de divulguer quelques images en première mondiale. Surveillez Star Wars en direct pour une émission spéciale consacrée à la deuxième saison complète au cours du mois de mai 2004. La série Clone Wars en France débutera le 28 avril 2004. Aucune nouvelle pour la version française au Québec, mais j'imagine que ce sera autour des mêmes dates que pour la France. Et alors, c'est tout. On a terminé la chronique diverse de Star Wars en direct. Alors voilà.
Ben,
on parlait de Clone Wars.
Ce qu'on peut rajouter à la suite pour Clone Wars, évidemment, ceux qui voudraient voir l'épisode 12 des Clone Wars, on vous invite à aller dans My Room 2 pour aller voir le lien. Et vous pouvez tout aussi bien le sauvegarder sur votre disque que le regarder en ligne, il n'y a aucun problème. Par contre, dès la fin de l'émission, le lien ne sera plus disponible. Profitez-en. Je vais aussi en profiter pour vous signaler qu'on va faire tirer pendant l'émission deux passes pour la première du film Dans une galaxie près de chez vous, qui aura lieu le mardi 30 mars prochain à 19h au Quartier Latin à Montréal.
Donc c'est vraiment la première.
C'est vraiment probablement
que la même première. Les comédiens risquent d'être là.
Exactement.
Moi. Donc si ça vous intéresse, communiquez avec nous ou par MSN, email,
par MSN, par courriel, dans le chat, dites-moi si vous êtes intéressé et on va faire un petit concours très rapide durant la chronique événement à la fin de l'émission.
Alors voilà, nous on s'en va à la pause musicale et on revient immédiatement après avec le sujet principal qui est Star Wars versus Star Trek. Moi n'étant pas un fan de Star Trek, Sébastien va parler beaucoup, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut voir avec tout le monde là-dedans. Donc, on revient après la pause de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Bonjour, je suis Patrick Giraud, responsable du Lucasfilm Magazine, le magazine officiel de Star Wars en France, et vous êtes sur Star Wars en direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Maintenant, avec une petite pastille, je vais être capable de mieux parler. Espérons-le.
Oui, n'est-ce
pas? Je commençais à perdre le souffle tout à l'heure de ma grippe. Bon, Star Wars versus Star Trek, sujet principal aujourd'hui. Je vais commencer par donner mon profil de connaissance Star Trek, que vous allez voir est très très mince.
Quel enfer commence.
Donc, sur les 10 films qui existent, j'en ai vu probablement un seul au complet. D'accord. Et quelques extraits de chaque pour les autres.
Est-ce que tu te souviens de quel film t'as vu?
Je crois que c'est celui qui vont sur la Terre.
Dans, qui retourne 4, dans le passé,
ouais, pour une baleine.
Pour baleines, donc ça, c'est le quatrième. Un des meilleurs films de la série.
Donc, déjà, je me souviens que c'est le quatrième, c'est bon.
C'est pas pire.
Et puis, dans toutes les séries, toutes les saisons confondues, j'ai peut-être vu 10 épisodes au complet.
D'accord.
Oui, j'ai vu des demi-heures ici et là, mais des épisodes complets, complets que je me suis assis du début à la fin, probablement seulement 10. Donc, vous pouvez voir qu'il doit y avoir des centaines d'épisodes, si on compte toutes les séries combinées avec toutes les saisons.
Ben, si on fait un décompte rapide, c'est 25 épisodes par année, environ une vingtaine d'épisodes par année, multiplié par 7 années, multiplié par chaque série.
Bon.
Donc, est-ce que tu veux que je sorte ma calculatrice?
Non. Plusieurs centaines, bon. Donc, j'en ai vu 10 là-dedans.
T'en as vu 10 sur toutes réparties, d'accord.
Yeah. Donc, je suis assez ignorant sur le sujet. Mais je vais donner un point de vue d'un ignorant de Star Trek.
Bon, ok. Mais c'est bien. Tu peux représenter le côté Star Wars si
ouais,
tu veux.
Ça.
Et puis.
Toi, tu as suivi quand même pas mal toutes les séries, je me.
Ben non, j'ai pas vraiment suivi toutes les séries. Premièrement, pour Star Trek, la première série, moi j'étais beaucoup trop jeune. Évidemment, on s'en souvient, là, je pense dans les années 70. Là,
t'étais pas né, quoi.
J'étais pas né, c'est ça. J'étais tellement jeune que j'étais même pas encore dans la pensée de mes parents, et, évidemment. Et puis, comme on sait, il y a la série qui a suivi Star Trek The Next Generation, qui, elle, a pris forme dans les années 80-90. Je l'ai vu quelques épisodes parce que ma mère est quand même une accro de Star Trek. Donc, j'ai vu quelques-uns des épisodes, mais j'ai jamais vraiment accroché avec la série.
Okay.
Surtout les petits tics nerveux du capitaine Picard me tapaient sur les nerfs de redresser son chandail à toutes les fois qu'il se relevait. encore récemment, j'essayais d'écouter des épisodes, puis à toutes les fois je le vois faire ça. Ça me fait flipper, comme on dit en France. la série Star Trek Deep Space Nine, après ça, j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant. Les quelques épisodes que j'ai écoutés, sauf à partir du moment où je me suis intéressé aux deux dernières saisons, qui parlent plus d'une guerre avec des nouveaux ennemis dans l'univers de Star Trek. Donc, c'était quand même assez intéressant.
C'était pas les Klingons contre les humains. Là.
Contre les humains, exactement. Et la série qui m'a vraiment fait accrocher, et non, ce n'est pas à cause de Seven of Nine, c'était Star Trek Voyager. Alors, Seven of Nine qui était joué par Jerry Ryan, qui est une Borg qui retourne du côté humain. Moi, j'ai beaucoup accroché sur la capitaine Janeway, pour être très franc avec vous. Et,
une femme forte comme dans Star Wars.
Exactement. Et puis, j'ai eu la chance de la croiser à mon retour de la Star Wars Celebration.
Ouais, attention.
Notre chère Kate Mulgrew. Donc, c'était quand même très drôle. Là. Tu sors d'une convention Star Wars, puis tu tombes nez à nez avec la capitaine du vaisseau Voyager de Star Trek. Tu fais comme, attends, là.
Tu viens de passer un portail dimensionnel.
Attends, il y a quelque chose qui marche pas, là. Exactement comme on va d'ailleurs en entendre parler ce soir dans notre émission, avec un fan audio
très spécial,
qui porte un peu sur les...
Sur un univers mixte entre Star Wars et Star Trek.
Exactement.
Donc, pour les intéresser ce soir.
Puis pour ce qui est de la série Star Trek Enterprise, qui se déroule avant même la série avec Kirk,
okay.
donc avec le capitaine Jonathan Archer, qui est le premier capitaine humain à partir vers l'espace avec le premier vaisseau Enterprise.
Ok, c'est le premier premier.
Exactement, le vrai premier premier.
Donc ils sont pas très loin.
Pas le NCC-01, c'est un nouveau type de vaisseau.
Ok.
Donc... C'est
donc on les a vus partir de la Terre puis faire planète par planète genre.
Exact. Donc la première mission des humains était de livrer un Klingon à sa planète.
Mon Dieu.
Et
que les Klingons étaient rendus sur la Terre.
Exact. Et les Klingons c'est un peu un crash qui est arrivé, un Klingon qui était poursuivi par d'autres extraterrestres qui s'est retrouvé sur Terre. Puis qui s'est fait tirer par un humain. Il a été soigné. Ils ont décidé de le ramener sur la planète des Klingons, dont le nom m'échappe parce que je ne suis pas un Trekkies, loin de là. Et voilà, c'est ça. C'était leur première mission. Et depuis ce temps-là, ils sont dans l'espace et ils ont décidé de continuer à explorer.
Bon. On va essayer de revenir sur Star Wars maintenant.
Oui, s'il vous plaît.
Bon. Moi, je peux pas vraiment dire pourquoi j'aime Star Trek, parce que je serais biaisé de dire que j'aime ça, parce que je le connais pas.
D'accord.
Donc, pour moi, j'aime pas ça, parce que j'ai jamais été capable de m'asseoir longtemps devant une émission, puis vraiment de l'écouter au complet. Je veux dire, pour moi, Star Trek, ça représente plus la science... comparativement à Star Wars qui est plus fantaisiste. Star Trek c'est comme un futur possible. Star Wars c'est un passé impossible.
Qui sait?
Ouais, ben.
Mais non, mais.
Peu importe.
C'est George Lucas.
C'est ça. Star Trek c'est intelligent. C'est très technique. Star Wars c'est le fun pis c'est plaisant. Tu sais?
Quelque chose qu'il faut tout de suite mettre au clair, c'est que Star Wars, c'est de la science fantastique et Star Trek, c'est de la science-fiction. Qui sont deux genres bien différents. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui voient Star Wars comme étant de la science-fiction. Mais c'est pas le cas. C'est même plus la science-fantasy qui s'est trouvée à devenir de la science. Quand on pense au...
tu me dis que la science-fiction, c'est de la science possible.
Science qui existe déjà, qui sert... Justement, on prend plusieurs aspects de la science, on les met ensemble, puis ça nous fait des vaisseaux spatiaux qui décollent et qui
vont visiter l'univers. C'est quand même des suppositions, c'est ça.
Il y a quelques suppositions.
C'est comme la science-fiction, c'est d'un futur possible,
ouais.
Disons.
Mais tu vois, la science-fantasy, c'est vraiment des choses inventées de toutes pièces. Puis on se souvient que les TIE Fighters de Star Wars en 1977, qui sont des Twin Ion Engine, au sens large du terme.
C'est Star Trek qui a inventé ça.
C'est Star Wars.
Ok, je pensais que les Ion Engine c'était aussi dans Star Trek. Iron Drive, peu importe. Ils n'ont pas ça dans Star Trek?
Non, c'est un autre type de matière. C'est de la matière et de l'antimatière dans Star Trek. Donc c'est autre chose.
Ah.
Mais tu vois, c'est ça. De Star Wars, la NASA maintenant a développé des moteurs à ions. Et bon, c'est pas aussi performant que dans Star Wars, on s'entend là. Ça ferait probablement pas Kessel Run en 12 parsec et sous 12 parsec, mais bon. C'est une démarcation qu'il faut prendre quand même entre les deux là. George Lucas n'a pas rien pris en tant que tel de scientifique qui était basé pour créer.
D'ailleurs, à la dernière émission, on parlait qu'il y avait une conférence en France. Qui allait parler de la science à Paris.
Exactement.
Je ne me souviens pas du tout de la date. S'il y en a dans le chat qui peuvent nous le rappeler.
Je vais trouver ça tout de suite, mais je pense qu'on pourra pouvoir en reparler aussi dans le segment des événements, à la fin de l'émission.
C'est Raven qui dit dans Star Trek les persos se sortent du trouble avec des techno-babbles.
Effectivement, ils vont sortir plusieurs explications techniques qui vont faire que ils sont capables de régler un problème en pesant sur 2-3 boutons.
C'est pour ça que je dis c'est très scientifique Star Trek.
C'est très scientifique, exactement. Que je regarde la conférence Star Wars à Paris va avoir lieu le lundi 26 avril à l'École nationale supérieure des télécommunications, puis je vous en reparlerai dans la chronique événement.
Dans Star Trek, l'hyperespace, est-ce que c'est un peu le même principe
de Star Wars? C'est... Premièrement, j'essaie de me souvenir, je pense qu'ils appellent pas ça l'hyperespace.
C'est un warp drive, là.
C'est ça.
Warp space.
C'est en vitesse de la lumière, là. C'est
warp speed.
C'est warp speed, là. C'est même plus... c'est pas vraiment l'hyperespace, sauf quand on tombe dans les séries comme Voyager, où ils utilisent vraiment... Mm-hmm. Les techniques Borg, mais encore là, c'est pas une entrée dans une autre dimension non okay. plus. Quand on regarde, Star Trek utilise à la base les trous noirs pour puis les wormholes comme on les appelle là,
pour se donner des élans,
puis pouvoir se propulser à travers la galaxie. Okay. Ils servent évidemment de l'antimatière qui sont dans leur moteur pour se propulser de cette façon là. Donc, ils se sont inspirés justement des trous noirs pour faire mm-hmm. ces propulsions.
Il y a aussi la téléportation, que tu n'as pas dans Star Wars, mais qu'il y a aussi de la recherche sur Terre là-dessus. Je pense pas que c'est très, très avancé, mais à part téléporter un photon ou un atome, là.
Exact.
Je vais dire franchement, mais quand même, Star Trek, c'est comme... Selon moi, c'est quand même si je suis pas fan de Star Trek... Je considère Star Trek comme le pilier de la science-fiction carrément là.
D'accord.
Même les fans, il y a beaucoup de fans de science-fiction qui se sont accrochés à Star Trek parce que t'avais rien d'autre entre les films, je dis, parce qu'il y a beaucoup de films de science-fiction au cours des années, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait rien d'autre. T'avais Star Trek à la télévision. Plus tard, tu as eu d'autres séries de science-fiction qui sont sorties, comme les autres séries de Star Trek, évidemment.
Babylon 5.
Stargate récemment, Farscape.
Si on veut retourner dans ces années-là, là, dans les années 80, il y a vraiment Doctor Who qui a fait, qui avait une présence assez forte.
Okay.
J'essaie de penser à d'autres choses, un peu Red Dwarf dans les années 90 aussi. Regarde ici sur le site officiel de Star Trek, on nous donne les années des séries.
Okay.
Juste les données pour situer les gens un peu dans le temps. Là. Star Trek, la première série, The Original Series, le TOS comme il est appelé par les Trekkies, de 1966 à 1969. Après ça, il n'y a rien eu sauf... Il n'y a même pas eu de film en fait.
Il n'y a pas eu un film?
Star Trek de Motion Picture, si je me trompe pas, retourne à 1980, dans les années 80. Ils ont comme relancé un peu.
Quand ils ont vu Star Wars, ils ont dit ouais, on embarque là-dedans nous autres.
On est capable aussi nous autres de faire des films exacts.
On avait vu un documentaire là-dessus.
Pendant que ça s'ouvre, oui, ben, c'était à Space, The Imagination Station, une petite station canadienne de Toronto. Mm-hmm. Qui justement nous avait diffusé un documentaire sur la vie entre les deux fandoms anti-Star Wars et Star Trek. Star Trek The Next Generation est apparu seulement en 1987 et a duré jusqu'en 1994. L'une des premières séries à faire un 7 ans en tant que telle, là, ce qui est devenu pas mal la
référence.
La référence et la règle depuis ce temps-là. Il y a eu Star Trek Deep Space Nine qui a suivi, mais qui a embarqué en même temps. Ça, c'est une des choses qui est géniale.
Il y a un overlap
de Star Trek, c'est qu'ils font vraiment embarquer ensemble les séries. Donc, il n'y a pas vraiment eu de relâche à la télévision pour ces séries-là. Bref, la série de Next Generation a duré jusqu'en 1994. Mais un an avant la fin de la série, ils ont commencé la série Star Trek Deep Space Nine,
okay.
qui est sur une station éloignée dans les fins fonds du cadran A,
okay.
parce qu'il y a quatre cadrans dans la galaxie Star Trek. Okay. Et dans la galaxie du cadran A, c'est une des stations qui garde justement un passage,
un
portail vers les autres cadrans de la galaxie. Ils sont pas tous explorés, ces cadrans-là. Tel que nous l'apprendra la série Voyager, qui elle commence en 1995, donc un an après la fin de la série Next Generation, qui est assez étonnamment une série avec une capitaine de vaisseau et non pas un capitaine, et qui est une série avec un vaisseau qui est autre que l'Enterprise, et ça nous raconte les aventures justement de deux équipages qui se ramassent dans les fins fonds perdus complètement à l'autre bout de la galaxie. Il faut qu'ils reviennent sur Terre et ça leur prend jusqu'en 2001. Bref, ça leur a pris un beau 6 ans pour revenir.
Ça a duré 6 ans, Voyager?
Ouais.
Oh merde.
C'était très long. Et puis là, ben, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'à la fin de la série Voyager, évidemment, on a détruit la reine Borg, finalement, qui a été le grand ennemi des humains après Star Trek The Next Generation, parce que les Klingons ont fini par faire la paix entre Star Trek et Star Trek The Next Generation. Donc, les humains n'avaient plus de grands ennemis. C'est devenu les Borg dans cette série-là. Star Trek Voyager s'en est débarrassé à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les fans en demandent plus. Les fans veulent savoir quoi.
On regarde George Lucas.
On regarde ce que George Lucas fait. Il est en train de compter sa prélogie. Ben, 2 ans après la sortie de l'épisode 1, en 2001, est apparue la série Star Trek Enterprise, qui est l'histoire du premier vaisseau Enterprise que je racontais un petit peu plus tôt. Donc, qui continue encore d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qui est surprenant, c'est que Star Wars a seulement eu 3 films et puis a réussi à survivre sans avoir toutes ces séries télé, etc., seulement par les fans, par l'univers étendu, dans le fond.
Par des livres.
Star Trek
a aussi eu un bon univers étendu, par contre.
Sûrement pas aussi étendu
plus que Star Wars.
Ah ouais? Je serais surpris. Pourtant, j'ai pas vu tant de livres que ça.
La prochaine fois que tu passeras chez Chapters ou chez Indigo, tu regarderas les différences entre les...
Je veux dire, si on exclut les livres qui représentent les épisodes, là...
Non, mais c'est justement, tous les livres que tu vois ne représentent pas les épisodes qu'on voit à la télé. C'est d'autres histoires autres que les épisodes.
C'est attristé.
Donc, tu peux voir que c'est effectivement poussé très loin l'univers de Star Trek.
On va se demander d'abord pourquoi que Star Trek a de la difficulté quand même à comparer à Star Wars, je dirais.
C'est vrai qu'ils commencent à traîner un petit peu de la patte.
Ils font du recyclage un peu, là. Ils ont fait leur temps, là. Ça fait comme 30 ans, là.
Ben, le problème, je te dirais, vient en fait des auteurs de la série, Brandon Braga et puis d'autres auteurs, qui ont tendance à trop reprendre les mêmes histoires, à se mettre à jouer trop avec le continuum temporel de l'univers.
Ils reculent dans le temps.
Donc, ils reculent dans le temps, ils avancent dans le futur, ils reviennent tout le temps, plus ça mélange complètement les ficelles du temps à travers l'espace, donc ça devient le bordel total. Puis Voyager nous a d'ailleurs donné beaucoup d'épisodes là-dessus, sur les voyages temporels et tout, dont certains épisodes même qui montraient des extraterrestres qui voyaient et qui jouaient avec toutes les lignes temporelles. Donc, ils étaient capables de reforger. Alors,
c'était Dieu, quoi.
Ils détruisaient une civilisation, puis ils reforgeaient complètement le continuum temps pour essayer de faire revenir des personnes qui étaient mortes.
C'est un peu fou, c'était ça, mettons.
Ce qu'il y a eu entre, évidemment, Star Trek et Star Trek The Next Generation, c'était les aventures animées, les petits dessins animés. J'essaie de voir en quelle année ils sont sortis.
Il y a eu des dessins animés Star Trek.
C'était comment est-ce que c'était en français déjà? Les patrouilleurs de l'espace.
C'était Star Trek en français. La première série, c'était Patrouille de l'espace.
Puis tu vois, ils ont fait une série animée.
Bon, ça me dit quelque chose, c'est vrai.
Donc ils avaient fait une série animée pour subvenir un peu après la fin de la série. J'ai pas d'année, mais je me souviens là, même en regardant les dessins,
on peut voir d'abord tout ce qui était à la télévision, c'est pratiquement inspiré de Star Trek, sauf peut-être Stargate qui est plus terre à terre,
ouais.
dans tous les sens du terme, mais Andromeda, Farscape, Babylon 5, etc., c'est quand même tout des trucs spatiales, science-fiction. Il n'y a pas vraiment eu de série comparée à Star Wars qui était fantaisiste. Peut-être Dune.
Qui est dérivé d'un livre, quand même.
Oui, c'est dérivé d'un livre, mais je veux dire, c'est quand même le même style, peut-être un peu que Star Wars.
Puis c'était plus film. Il est sorti au cinéma.
Oui, ça je sais.
Donc,
mais je veux dire, c'est le même genre de
science-fantasy,
c'est ça. Je cherche une série télé qui était science-fantasy, c'est ça que je cherche. Il y a eu une série Dune aussi, c'est ça que je parlais aussi, qui est sortie après le film, qui est sur
Channel, qui est sorti récemment, dans les dernières années, dans les 4 dernières années.
Il y a eu une autre série télé qui est sci-fi fantasy.
Oh, il y en a plein. Il y a Lex, entre autres.
C'est de la fantasy, c'est pas science-fiction, ça?
Lex, c'est de la fantasy. Il y a Babylon 5, qui est...
ça a l'air science-fiction.
Qui, ben, c'est encore de la science-fantasy, parce qu'eux autres, ils sont dans le futur encore, mais ils ont vraiment des technologies là, qui dépassent ce qu'on a présentement.
Okay.
C'était une série qui avait été écrite pour être basée sur 5 ans et qui a été basée sur 5 ans. Avec quelques films depuis, etc. D'autres séries qui sont science fantastique, ben, il y a eu Firefly. En fait,
je me souviens, c'était comme un western.
Une espèce de western
spatial.
Qui est passé à Fox, qui a été cancellé tout de suite. D'ailleurs,
cancelle juste les bonnes choses.
Fox ont tendance à faire un an d'une série, puis de les canceller après, surtout quand c'est bon. Si on regarde une autre très bonne série qui a été cancellée après un an, c'est Space Above and Beyond, mm-hmm. ou Espace 2063, je crois, en français, qui ont des traductions bizarres, qui était très très bon. Comme
ça, c'est un autre que j'ai écouté quelques épisodes.
C'est le genre de série que je te verrais.
Dans le temps que c'était gratuit, parce que dans le temps que Canal Z de sortie, ils jouaient ça, puis ils ont coupé à un moment donné, puis c'était rendu payant, mais j'ai pas conservé le poste.
Bon, t'as pas dû manquer grand-chose à part la fin. Effectivement,
j'ai
comme
vu 3-4 nous dit,
Battlestar Galactica, qui est sorti dans les années 1980.
Bien sûr.
Ça, c'était plus science-fiction, par contre.
C'était encore la Terre, puis ils essayaient de se trouver une nouvelle... retrouver la Terre, c'est ça?
Il essayait de trouver une nouvelle Terre. Donc, plus science-fantasy, parce qu'il y avait des extraterrestres qui étaient inclus là-dedans.
La science-fiction. Earth 2, souviens-tu?
Ouais, Earth
2. Terre 2,
Terre 2 qui sera aussi science-fantasy. Si tu veux de la science-fiction, Espace 1999. Cosmos 1999.
Oh, oui, ça, j'écoutais ça.
La Lune qui sert de dépotoir nucléaire. Un des dépotoirs explose. La Lune sort de l'orbite. Des horreurs complètes qui se déroulent sur la Terre. On finit la Lune. En tout cas, ils réussissent à survivre sur la Lune. Ils rencontrent... je me souviens plus s'ils rencontrent des... Oui, ils rencontrent quelques vies extraterrestres et certaines choses comme ça. Mais la Lune devient comme une espèce de vaisseau spatial. C'est assez intéressant et farfelu, mais quand même plus science-fiction parce que... Ils s'en tenaient à certaines technologies qui sont connues.
Mm-hmm.
La série animée de Star Trek, en passant, c'était de 1973 à 1974.
OK. Donc, si je m'en souviens, c'est en reprise parce que...
Toi aussi, tu es...
J'avais un an.
Ah, d'accord. C'est il y a très longtemps.
Ouais.
Voilà.
Ensuite, comment je pourrais te dire ça? D'où sort la rivalité entre les fans de la série? Non, moi, j'ai aucune idée.
Ça, c'est vraiment là, profond.
Non, mais c'est que les fans, ils sont... je dirais, c'est surtout quand même les fans extrêmes là, qui se sont partis en guerre en disant que bon, notre univers est meilleur que le vôtre, blablabla, etc. Mais d'où ça sort, cette haine-là?
Je sais pas d'où la haine est venue. Puis en fait, quand on regarde même à la Star Wars Celebration, à Star Wars Celebration 1, il y a des gens qui sont présentés d'exemple Klingon.
Mm-hmm. Regarde n'importe quoi, le petit bout de film à Conan O'Brien, pour faire chier, excusez-moi l'expression, les fans de Star Wars, ils amènent une personne dans Star Wars à l'attaque des fans à Montréal.
Star Trek.
À l'attaque des fans à Montréal.
Ouais,
il y avait une personne déguisée à Batalon du forum de Cyclan.net qui était déguisée
en Spock.
En Spock.
De Star Trek.
À l'attaque des fans. Donc, c'est comme mais de nos jours, c'est moins pire, la rivalité. J'ai l'impression que c'est plus dans le temps de la trilogie classique que la série originale à la TV.
C'est ça. Quand il y a eu vraiment, là, il y avait les univers étendus. En fait, c'est que Star Trek a vraiment commencé ce qui est devenu maintenant le phénomène des conventions de science-fiction. Star Trek a vraiment commencé ça avec les conventions où on rencontre les acteurs des films et des séries. Donc, c'est génial, on peut leur demander comment est-ce que vous avez aimé ça, jouer le Capitaine Kirk, mm-hmm. si on prend William Shatner. Toutes ces questions-là qui passent par l'esprit des fans pouvaient être répondues à une large
échelle
de personnes sans avoir à répondre à 10 000 lettres.
Mm-hmm.
Donc, Star Trek a parti un peu ça. Puis, je pense qu'ils ont dû vouloir suivre à un moment donné avec Star Wars et d'autres science-fiction, évidemment, d'autres science-fantasy. Et ça l'a un peu... ça l'a pas aussi bien parti que Star Trek, parce que ce qu'on appelle le fanbase, la base où les fans se tiennent ensemble, mais vraiment se tiennent fort, n'était pas aussi forte que Star Trek dans le temps. Encore aujourd'hui, sur Terre, il y a des milliers, des millions de fans de Star Trek et de Star Wars, évidemment. Star Wars qui monte encore en popularité, qui devient de plus en plus fort à chaque jour. Star Trek qui baisse, je dirais, un petit peu.
Mais c'est peut-être par la redondance des idées qui reviennent.
Mais ça se soutient quand même sur un plateau là, de « Oui, bon, je me souviens de la trilogie, je me souviens de la série originale, et puis ça, c'était le bon vieux temps. » Comme nous, on dit « Oui, je me souviens d'Empire Strikes Back, puis ça, c'était le bon vieux temps. »
C'est quand même la base de fans, que tu as Star Trek d'étiqueté, puis...
C'est ça.
Ils vont être...
Mais quand...
On m'a demandé dans le chat tout à l'heure... pourquoi Babylon 5 est science fantastique au lieu de science-fiction?
Je dis justement, l'une des différences que je vois entre le science fantastique et le science-fiction, c'est que le science fantastique se base sur des faits qui sont complètement inventés. Il n'y a pas vraiment rien de
comparable à sur la Terre.
Sur la Terre. La Terre est souvent pas présente. Dans Babylon 5, la Terre est présente. C'est dans un futur. Mars a été colonisé. Il y a eu des guerres entre Mars et la Terre. Il y a eu des guerres après ça entre les colonies terriennes et d'autres extraterrestres. Donc,
ça allait compliquer pas mal.
Ah, c'est une série qui est très politique, mais très intéressante. Je dois le dire, là. Babylon 5, c'est une série qui est super bien. Si vous pouvez l'avoir en DVD, ça vaut la peine de la regarder dans l'ordre, l'une à la suite de l'autre, parce que sinon, vous allez virer. moi, je dis que c'est plus science fantastique, justement, parce qu'il y a beaucoup d'entre-gens avec des extraterrestres. Mm-hmm. La Terre, on en entend parler, mais pas aussi souvent que le reste des histoires des autres.
Donc, tu dirais donc que Stargate, c'est science fantastique?
Stargate resterait...
Tu as beaucoup d'éléments terrestres quand même.
Science-fiction à cause des éléments terrestres, justement. Mais ça serait du science fantastique parce que c'est quelque chose qui est...
Il n'y a rien de technologie qui est concret avec ce qu'on a.
Il n'y a rien de concret. À moins que l'armée américaine nous cache des faits. Mais ça, on le sait qu'ils le font déjà, donc qui sait? On va peut-être avoir des dieux.
Des Kwaoul.
On va peut-être avoir des dieux égyptiens qui vont nous tomber sur la tête.
donc, on n'a pas vraiment répondu à la question d'où est-ce que la rivalité sortait. On le sait pas.
La rivalité, en fait, c'est que justement, Star Trek est sorti en 1966 jusqu'en 69. George Lucas a dû grandir avec ça.
Ouais.
Battlestar Galactica aussi.
Ça a sorti la même année que Star Wars A New Hope.
C'est ça, c'est sorti en 1980. La grosse rivalité vient du fait que Star Trek est allé en premier. Puis c'est pas. Les fans veulent pas admettre que c'est George Lucas qui a révolutionné l'ère du cinéma avec les effets spéciaux et tout, alors que Star Trek faisait déjà des petits vaisseaux qui se déplaçaient dans l'espace. Si vous regardez la série originale, c'est pas.
Tu vois pratiquement le fil.
C'est ça, on voit pratiquement les fils. Oui, c'est vrai que c'est le début des effets spéciaux de vaisseaux dans l'espace et tout, mais c'était pas aussi bon que la façon que George Lucas l'a amené dans Star Wars.
C'était pas un écran bleu, là.
C'est ça. Cependant, les fans de Star Trek ont eu beaucoup, beaucoup de misère à accepter ce fait-là. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui ont encore beaucoup de misère à accepter ce fait-là.
Parce que ça, c'est plus des descendants...
C'est plus la rivalité entre Gene Roddenberry et George Lucas.
OK.
Donc, là, qu'il faudrait aller voir à analyser.
Puis c'est pour ça qu'ils sortent d'autres séries comme Andromeda, puis des trucs de même. Là.
Exactement, Earth Final Conflict.
Ils continuent à sortir des séries.
Ouais.
Qui s'apparentent à Star Trek quand même, hein?
De très près, effectivement. Puis quand tu regardes ça, de toute façon, c'est son fils, en fait, c'est Eugene Roddenberry Jr. Qui sort les nouvelles séries, qui les produit. Mais c'est sur des notes de son père. Un peu comme Christopher Tolkien fait avec les notes de son père pour les livres du Seigneur des Anneaux. Mm-hmm. Les livres étendus du Seigneur des Anneaux.
Les histoires non complétées.
Les histoires non complétées et ainsi de suite.
Les fans maintenant. On va parler des fans extrêmes. Première chose qu'on peut dire, ben, T'as des documentaires qui existent en, pour Star Wars. T'as Millennium's End puis Star Wars qui existent en DVD que vous pouvez vous procurer, que vous allez avoir des bons aperçus de fans extrêmes. Puis côté Star Trek, t'as Trekkies.
L'ultime. Puis, je vais dire aussi le film qui est sorti il y a quelques années, Galaxy Quest.
Ah oui, c'est un bon cliché.
C'est un très bon cliché des fans extrêmes de Star Trek. Justement,
j'ai pas vu ce film, donc.
Avec le jeune fan de science-fiction qui va à la convention rencontrer ses acteurs, mais qui connaît absolument tout du vaisseau. Qui est un vaisseau tout à fait fictif. Mm-hmm. Et quand les acteurs se retrouvent sur une réplique réelle du vaisseau, il finit par les aider à se retrouver. Donc, c'est un bon film, c'est très drôle à regarder. Par contre, quand on est allé le voir au cinéma, il y a une scène où on voit, du point de vue des acteurs, dans la salle, toute la foule, avec les costumes de différentes sortes, etc., etc.
Et ça fait peur.
Je dois avouer que c'est comme se regarder dans un miroir. Sincèrement, là, j'ai été sur les planches de la scène d'une convention, comme tu le sais. Je vais me faire péter la gueule, d'ailleurs. c'est quand même impressionnant de se retrouver devant une foule comme ça, de personnes toutes déguisées dans toutes sortes de créatures différentes.
C'est un peu fou. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué pour est-ce que les fans de Star Wars sont plus extrêmes que les fans de Star Trek? Il y a des rapprochements quand même. Moi, je me rappelle dans le film Trekkies, c'est un dentiste.
Il y a un dentiste.
Qui a fait sa clinique et complètement Star Trek. Et
quelques petites essences de Star Wars aussi, on se souvient qu'il y a un R2-D2 dans
ça. C'est ça. Et puis, il est habillé en. Je crois, la Fédération, là.
Ouais.
En habit de Fédération. Au travail, ses assistantes sont habillées en Star Trek, etc. Puis
en habit de Starfleet.
En habit de Starfleet, puis aller, tu sais, il opère des dents, puis il arrache des dents, puis
il fait tout.
Il répare des caries, etc. C'est extrême point qu'un peu. Là, il s'en va au travail habillé en Star Trek. Il y avait d'autres exemples aussi que je me souviens pas. Une personne qui était jury, ça se peut-tu? C'était-tu là-dedans?
Ouais. Ben en fait, c'est, je sais plus c'est dans quel état des États-Unis. Mais il y a une citoyenne américaine qui a été demandée à assister à un trial.
Ouais, pas une poursuite, mais on est donc bien
mauvais. Ça fait presque pas la une des journaux en plus de ce temps-ci.
Un procès,
voilà. Alors, il y a une citoyenne américaine qui fallait qu'il soit jury dans un procès, et elle a décidé de se présenter au procès habillée en uniforme de Starfleet. Elle, à tous les matins, quand elle va travailler, elle a toujours sur elle son tricorder et son scanner. Son tricorder et son communicateur, pardon. Okay. Et,
les accessoires, ça.
Exact. Et puis, tous ses copains de travail l'appellent la capitaine. Mm-hmm. Et c'est quand même assez impressionnant, là, quand on regarde ça, de voir que quelqu'un irait jusqu'à se présenter au tribunal habillé en habit de Star Trek. L'explication qu'elle donne, et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est que à ses yeux, Starfleet représente l'ordre de la justice. Et ils lui ont demandé de représenter l'ordre et la justice, donc elle s'est vraiment mise dans son rôle.
Donc on n'a pas vu de Jedi encore en tant que jury.
Exactement.
Déguisant Jedi.
J'ai bien hâte de me faire demander d'être un jury.
Oh mon dieu. J'espère que tu n'iras pas en touche de Jedi.
Qui sait?
Oh mon dieu.
Seul l'avenir nous le dira.
La paix et la justice de la galaxie.
Eh oui.
Non, mais justement, peut-être que les fans de Star Trek, ils sont plus portés à croire que c'est vrai, étant donné que c'est de la science-fiction au lieu de la science-fantasy, peut-être. Peut-être que ça joue plus dans leur esprit, ce côté-là, qui font qu'ils sont plus extrêmes un peu. Comme les Klingons et toutes ces affaires-là, il y a des fans extrêmes là-dedans, maudits, qui apprennent le langage des Klingons. Là.
Je me souviens plus du nom de l'homme, justement. Je pense que c'est un Daniel quelque chose, qui a créé le langage des Klingons. Mais ce gars-là a vraiment fait un dictionnaire, là, carrément, qui a rendu disponible aux fans, contrairement aux basique ou peu importe quel langage.
Le basique, c'est l'anglais. Là.
C'est ça. Bon, mais mettons le Chiriouk, là.
Ok, ouais.
Le Wookie. On n'a pas de. On n'a pas de dictionnaire de Chiriouk.
On a des petits guides qui ont quelques mots, etc., mais sans plus, là. Comme le Chiriouk. Pas le Boten, mais le Jawa, le Bachi, puis toutes ces langues.
Le
Otis. Ces affaires-là. Le Iwakis aussi. Mais
effectivement.
C'est Ben Burt qui a sorti un petit guide avec des mots, etc., mais pas un dictionnaire, puis la syntaxe, la grammaire, etc. C'est pas. Ça se compare pas, là. C'est pas du Tolkien qui. Avec ses langages, là.
Non, effectivement. J'essaie de regarder. Attends, je disais Dan, mais je pense que c'est Marc. Quelque chose, le nom de l'inventeur de la langue des Klingons. Vais-je le trouver? Alors, pour continuer, c'est ça.
Les fans extrêmes de Star Wars, on en a parlé.
Ben, les fans extrêmes de Star Trek, surtout les Klingons,
ouais.
C'est vraiment les Klingons qui se sont le plus démarqués depuis toutes les années.
Mm-hmm.
Les Klingons, c'est un peu l'équivalent des Stormtroopers, si tu veux.
Ouais, les, comme
dans Star
les
Wars.
501st,
les 501st.
C'est les fans de Star Wars les plus extrêmes, on peut dire. Puis le gros club, puis le côté Star Trek, c'est les Klingons.
Exact. Et puis, eux autres, ils ont des armes assez...
Tranchantes,
assez efficaces. Et c'est assez effrayant de voir qu'il y en a qui ont été jusqu'à se faire ces armes-là, à recréer les combats.
Comment tu peux aller dans les conventions avec ça, tu te fais arrêter?
Ben en fait, c'est que
arme blanche.
En fait, tu vois, c'est que ces armes-là, ils ont été sont à bout non tranché, okay. Arrondi. Donc c'est permis dans les conventions tant que c'est un batlek, ça s'appelle. C'est une espèce d'épée en forme de croissant. Le batlek en tant que tel. S'il y a des protections sur les bouts les plus pointus puis que les lames ne coupent pas, tu vas avoir le droit de le porter, préférablement seulement dans ton dos, avec une...
Essaye pas d'amener ça dans l'avion.
Avec une, exactement, avec une attache, qui est pas, tu peux pas te défaire facilement, comme ça personne ne peut vraiment le prendre pour se battre avec. Quand même, c'est assez... c'est assez effrayant parce qu'il y en a qui vont se battre, nous autres... Il y en a certains qui font des combats de sable laser, plus des chorégraphies. Tandis qu'il y en a qui font vraiment des vrais combats de batelet. Un peu comme qu'il y en a qui font des récréations médiévales, mais il y en a qui font des vrais combats de batelet.
Ils se blessent.
Ils font toutes les heures pour être un Klingon de maquillage.
Ouais.
Je peux te dire que moi, j'ai fait un maquillage rapide de Klingon en 20 minutes. Pour le visage, c'est faisable. Mais quand on regarde certains Klingons dans Star Trek... Tous les détails.
Les extensions de latex. Puis...
Avec les extensions de latex pour les fronts et tout, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, petite pause, le saviez-vous, on va vous apprendre quelque chose aujourd'hui. La pire insulte à dire à un Klingon, sais-tu ce que c'est?
Non.
C'est Rab Soslich. Ça, c'est du Klingon qui, traduit en français, signifie ta mère a un front plat.
Ok.
Qui est la pire des insultes que tu peux pas dire à un Klingon.
mon Dieu. Bon, côté Star Trek, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Prendre des commentaires?
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelques commentaires?
Je vais lire les commentaires du forum.
En passant, dans le chat, j'ai donné un lien pour vous donner quelque chose qu'on va discuter un petit peu plus tard. C'est les effets un peu Star Trek, Star Wars dans les années 80. Et le lien que j'ai donné, c'était Bomber X, qui est, que j'y retourne, www.sfxb.co.uk.
Et voir comment que cette série-là est inspirée
de
Star Wars. Ben, c'est dans,
de Star Wars,
c'est
de Star Trek.
C'est dans la... Dans le petit extrait du début d'émission, dans la chanson du début.
Qu'on le voit très
bien.
On
voit plein d'extraits. Un canon qui tire des vaisseaux qui passent, un peu comme le Millennium Falcon. Le vaisseau a des ailes X. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? T'as des vaisseaux ennemis qui sont soutenus comme des TIE Fighters par le dessus.
Exactement.
Toutes sortes de petites inspirations comme ça.
Bon, voilà. Mark Ockrand, c'est lui qui a créé le langage Klingon.
OK. Bon, on va aller dans le forum. Mad Noroid nous a répondu par rapport au sujet.
Moi, je dévore tout ce qui est science-fiction, mais je suis d'abord et avant tout un fan de Star Wars. J'aime bien Star Trek, c'est un univers très intéressant. J'ai adoré la série La Nouvelle Génération. Dommage que ce n'est plus diffusé à ZTV. J'ai commencé à l'écouter en anglais il y a longtemps, avant d'écouter en français. Par contre, ça ne peut pas plaire à tout le monde, surtout ceux qui sont habitués à l'action comme dans Star Wars. Est-ce que Star Trek a moins d'action que Star Wars? On peut dire que oui. C'est moins concentré en action, peut-être?
C'est moins concentré en action, c'est vraiment plus technologique.
Exploration.
Et exploration, etc. Ben, il y a quand même un 50%, je dirais, d'action. Là,
tu dirais-tu que les films de Star Trek ont plus d'action que les séries télé? Probablement.
Je dirais que oui, mais ça reste que tous les films de Star Trek, c'est des épisodes de 120 et plus minutes.
Ok. Il continue. Pour les films, c'est vrai que Star Trek fait pas le poids contre Star Wars, mais il y en a des bons comme Wrath of Khan et First Contact, des incontournables. J'écoute moins de séries Star Trek ces temps-ci. Moi, les séries que j'écoute, c'est Farscape, Andromeda et Alias. Donc, on pourrait dire que mon intérêt pour Star Trek a diminué, surtout avec l'échec du dernier film Nemesis, réalisé par un tweet qui connaissait à peine la série. J'ai aucune idée. Star Trek demeurera toujours une icône de la science-fiction. Quand on pense science-fiction, on pense souvent à Star Trek. C'est vrai. Nemesis, ça ne me dit rien. Je sais qu'il y a eu une grosse batterie publicitaire autour de ce film-là, mais je ne l'ai pas vu.
Effectivement. Ben, moi, je l'ai vu. Puis je dois dire qu'il y a une règle qui a été établie après un certain nombre de films de Star Trek, après environ les 6 premiers films, c'est que tous les films chiffre pair étaient quand même des bons films, sauf, je crois qu'il y en a un là-dedans qui n'est pas génial, mais tous les autres sont vraiment... Tous les films impairs sont pas...
Sont condamnés,
c'est ça.
Donc, Nemesis est un chiffre impair?
Nemesis est un chiffre pair. C'est numéro 10. Ça aurait donc dû être un très bon film. Cependant, c'est vrai que c'est un film qui est assez... qui laisse beaucoup sur la fin pour un Trekkies. Qui est pas vraiment super intéressant. C'est juste une autre aventure du Capitaine Picard et de l'équipage de l'Enterprise. Ça l'amène pas vraiment d'histoire.
Peut-être que le prochain film de Star Trek, ils vont prendre les personnages de Star Trek Enterprise. Je sais pas si la série a du succès ou pas.
La série a du succès, en tout cas, dans les dernières années, elle en a eu. Je sais pas si elle en a encore beaucoup. Par contre, moi, je sais que je la suis plus vraiment. J'ai pas la chance. Le fait qu'elle soit disponible seulement
un canal payant.
Sur des canaux payants et aussi, là, on parle de spécifiques, là, comme Space ici au Canada, Sci-Fi.
Les chaînes spécialisées.
Sci-Fi et UPN aux États-Unis. C'est quand même tout sur le câble. Là. C'est pas rien de qui est plus disponible au grand public. Pardon. Donc, ça joue beaucoup avec le fandom de Star Trek.
Ça diminue l'accessibilité.
Exactement. Mais pour ce qui est de Star Trek Nemesis, c'est vrai que c'était pas un très bon film. C'était juste pour... C'était en fait un film qui était expliqué, qui était là pour séparer l'équipage de Star Trek Next Generation. Mm-hmm. Parce que ça fait quand même plusieurs films qui sont faits avec l'équipage de Next Generation. Et ils ont dit, on veut les séparer pour que certaines personnes aient des films et que d'autres personnes, on les voit plus. On s'en occupe plus. Par exemple, Star Trek Voyager est l'une des séries qui a été les plus décimées par les fans de Star Trek.
Décimée?
Ouais.
Calée.
Ils l'ont pas aimé. Et pourtant, c'est une des séries qui a amené encore des fans à Star Trek parce que justement, c'était vraiment hors de l'ordinaire pour Star Trek.
Il y a eu beaucoup de fans qui ont dû joindre les.
Exactement, fans à ce moment-là.
Star Trek.
Je suis sûr et certain, je suis d'accord avec toi là-dessus sur ce point-là. Le film Star Trek Nemesis nous a montré l'amiral Janeway, justement. Donc, on sait que le film a lieu après le retour de Voyager sur Terre.
Elle est rendue amiral.
Elle est rendue amiral, évidemment, parce qu'elle a ramené son équipage héroïquement.
À bon port.
Et elle a détruit les Borg, donc c'est génial. Mais bon, on retourne avec des vieux ennemis encore en plus, les Romuliens. Donc, c'est plus...
C'est pas original.
C'est plus un scénario original. Là. C'est vraiment du... on va brasser un petit peu là, le fond de vase de l'étang, puis on va voir ce qu'il y a ensemble.
Bon, Bubu, lui, il mentionne les deux univers n'ont rien à voir. Ce n'est donc pas étonnant que beaucoup de ceux qui aiment l'un n'aiment pas l'autre. Malheureusement, les gens qui ne connaissent pas ont tendance à tout mettre dans le même panier. Moi, j'adore les deux univers. Star Wars fan, Star Trek et Star Wars sont deux univers différents. Je les aime tous les deux. Car Star Wars a plus l'accent, j'imagine, sur des films intéressants, une histoire super, mais très peu probable que le futur soit comme cela. Ok. Comme on disait, c'est très divertissant, mais c'est impossible d'un futur comme ça.
On peut pas s'attendre à un futur comme ça.
Tandis que Star Trek, c'est un probable futur, selon moi, car beaucoup des histoires racontent ce que peut être le futur. Alors, pour Star Wars et Star Trek, sont très belles réalisations de science-fiction d'ailleurs, les meilleures à mes yeux, il n'y a rien qui ne s'y rapproche. C'est vrai qu'il y a de nouvelles séries de science-fiction comme Farscape et Andromeda qui sont très bons, mais pas proches des deux autres. Je sais pas, j'ai pas. Andromeda, bon. J'ai vu un épisode.
Andromeda, en
Farscape,
fait.
Farscape, j'ai jamais vu ça.
C'est la conquête de la.
C'est une autre fédération.
Du Commonwealth de l'univers. Là. C'est donc quelque chose d'assez américanisé pour le restant de l'univers. C'est une série qui est de Gene Roddenberry, par contre. Ça a été inspiré de Gene Roddenberry. Cependant, Farscape est une série qui n'a rien à voir avec Gene Roddenberry. C'est une série des studios de Jim Henson, donc avec des marionnettes, des costumes qui sont quand même assez intéressants. Moi, je vois énormément de bons commentaires présentement de cette série-là, qui est passé très proche d'être annulé, qui a été repris, je pense, par le Sci-Fi Channel, justement. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'ils sont dans leur 7e saison. Je sais pas s'ils vont continuer ou pas. Mais apparemment que les gens réalisent que c'est vraiment une bonne série de science-fiction.
Moi, j'ai aucune idée, ça parle de quoi.
En fait, tu vois, c'est un astronaute qui se fait propulser dans une espèce de puits interdimensionnel qui se ramasse dans une autre galaxie avec des extraterrestres rebelles qui se sauvent d'un empire un peu dictatoriel et ils réussissent à se sauver à bord d'un vaisseau qui est vivant et qui a une propre pensée un peu Yuuzhan Vong Zonama Sekot là, okay. qui est mélangé avec la technologie et c'est assez fancy comme série, puis je pense qu'il faut pas vraiment beaucoup manquer d'épisodes avant d'être perdu un peu. J'ai la misère à l'expliquer parce que...
perdu juste dans tes explications.
C'est une série qui est quand même pas évidente à...
Bon, fait de la prouette. Personnellement, j'ai jamais aimé Star Trek à cause de la langue. En effet, au début des années 90, les seuls épisodes de Star Trek étaient dans leur version originale. Et j'avais juste 7 ans. En plus, Star Trek se veut quelque chose de réaliste, entre guillemets, parce que ça se déroule dans notre futur. Star Wars, par contre, se passe dans un monde futuriste éloigné du nôtre et avec lequel nous n'avons aucun contact. Sur ce point, je crois que Star Wars est meilleur. Mais j'avoue que je suis biaisé, j'ai jamais vraiment regardé Star Trek. Someone, je peux difficilement donner mon avis sur les films, n'en ayant jamais vu un seul, ce que je devrais faire à l'occasion. Quant aux séries, j'ai vu 2 ou 3 épisodes de Deep Space Nine, et je dois dire que je n'ai jamais pu les endurer jusqu'à la fin. J'ai trouvé cela ennuyant parce qu'il ne se passait pas grand-chose. C'était un peu comme moi. J'ai seulement réussi à durer pendant 10 épisodes dans toutes les séries qui existent. Donc,
c'est pas ça t'a pas attiré.
Non. Bon, belle dame maintenant, Star Wars et Star Trek sont complètement différents et donc, selon moi, parfaitement complémentaires. Je ne comprends pas ceux qui s'opposent, qui les opposent. Personnellement, j'aime la science-fiction et le fantastique. Donc, naturellement, je suis fan de Star Wars et de Star Trek. Je n'ai jamais caché cet écrit dans mon profil. J'ai passé des centaines d'heures de plaisir à regarder les films et les épisodes des différentes séries de Star Trek. Et il dit 600 épisodes télé ici. Là. Bon. Fait que ça doit tourner autour de ça. Et je dois dire que nombre d'épisodes étaient de vraies perles à l'ambiance et à l'intrigue vraiment fantastique. J'ai même trouvé certains de ces épisodes plus passionnants que les films de Star Wars. moins d'effets spéciaux, mais plus de suspense, plus d'émotion.
C'est vrai qu'il y a certains épisodes, je dois admettre, surtout dans la série Voyager, selon moi, là, qui ont tendance à vraiment te laisser là, sur ta fin, puis tu veux voir la suite, okay. Tu veux savoir ce qui arrive.
Je vais dire une fin comme I Am Your Father, m'a dit ça peut pas donner plus fin que ça, voir la suite.
C'est vrai que c'est dur à battre.
Bon, je continue. Les scénaristes de Star Trek ont vraiment beaucoup de talent. Cette qualité de série télé Star Trek me fait souvent regretter que Star Wars n'ait jamais eu d'adaptation télé, qu'aurait donné une mini-série sur la trilogie de Tron ou la série NGO en 25 ou 50 épisodes ou une série X-Wing. Et il y a bien l'animé de la guerre des clones, mais ce n'est qu'un mini-cartoon, pas une série avec de vrais acteurs. Ce n'est qu'à venir. Star Trek a montré qu'on peut faire de la bonne science-fiction à la télé. Battlestar Galactica en est un autre exemple. Heureusement, il y a des romans de l'univers étendu de Star Wars, sinon les fans de Star Wars auraient vraiment peu de choses à se mettre sous la dent entre deux films. Côté roman, je pense que Star Wars s'en sort mieux que Star Trek. Je le pensais aussi. Je ne crois pas qu'il existe l'équivalent d'une longue série comme NGO chez Star Trek. Je sais pas. Y a-t-il une série de 21 livres?
C'est fort probable que oui. Puis même peut-être plus long encore. Mais je pourrais pas confirmer ni dire que c'est une série aussi palpitante et qui a tendance à se suivre. Mm-hmm. Comme NGO. Okay.
Là, je fais un appel à Michael Skywalker. Si tu nous écoutes, va dans le chat, sinon on t'appelle pas tout à l'heure. Ok, je continue. Je ne parlerai pas trop. J'ai manqué. Okay. Côté jeux vidéo, les deux séries ont donné naissance à d'excellents jeux. Je peux pas juger là-dessus. Côté musique, il n'y a pas de photo finish. Impossible de faire mieux que John Williams. Quand on a le maigre budget des films et des séries Star Trek, les musiques de John Williams sont magnifiques. D'ailleurs, George Lucas ne s'est pas trompé. Il l'a gardé pour la prélogie. Je ne parlerai pas trop sur le fond de ces deux séries. Il y a trop de choses à dire tellement elles sont différentes. Comme ça a été dit plus haut, Star Trek a un futur plus ou moins réaliste de notre monde où l'humanité au sens large, alien inclus, extraterrestre inclus, rencontre les mêmes problèmes que nous rencontrons dans notre société contemporaine. Elle fait de son mieux pour les résoudre, mais les solutions ne sont pas toujours parfaites. Les malentendus sont nombreux, les personnages ne sont pas gentils ou méchants. Beaucoup d'épisodes de Star Trek se finissent mal. Il n'y a pas beaucoup de happy ending. La longueur des séries télé Star Trek permet aux scénaristes de faire évoluer les personnages. Dans Star Wars, il n'y a que les romans de Timothy Zahn et la série NGO qui ont permis de faire vraiment évoluer les personnages des films et de l'univers étendu. C'est vrai, ça c'est un bon point, c'est qu'une série télé permet de faire évoluer des personnages. Il faut juste regarder Star Wars. Luke Skywalker, qu'est-ce qui a fait évoluer son personnage? C'est pas les films, c'est tous les romans qui nous a fait apprendre son personnage,
qui nous a fait découvrir plus profondément.
Ouais, c'est ça. On connaît la surface de Luke Skywalker, puis la base, qu'est-ce qui est nécessaire à l'histoire des films.
Exact.
Mais si on veut en savoir plus, c'est impossible autrement. Moi, est-ce que Michael est dans le chat? Non. Donc on ne l'appellera pas. On continue. C'est le dernier post, je crois. Oui. Namlok. C'est bizarre, Star Trek ne m'a jamais vraiment attiré. Je ne connais que la première série avec Spock. C'était bien, mais sans plus. Ça allait pas jusqu'au fanatisme, mais je crois que cette série... c'est une série qui essaye par des actions d'être possible scientifiquement, ce qui est tout le contraire de Star Wars, mais dans Star Wars, il y a la fantaisie en plus. Par contre, j'ai vu que quelqu'un parlait de Galactica un peu plus haut, et ça, c'est vraiment à chier.
Ben d'ailleurs,
j'ai acheté le film d'occasion l'autre jour, et je ne me suis jamais autant ennuyé. C'est vrai que s'il a pris le film qui est sorti en 1978, le film pilote à la série, qui durait 2 heures, qui est sorti la même année que A New Hope, c'est pas extraordinaire.
A New Hope est sorti en 1977.
Ah oh, bon, ok, un an après.
Donc, oui,
il a été écrit en même temps.
Il y a des longueurs. Il y a des grandes longueurs à Battlestar Galactica. C'est vrai là, que c'est plus... C'est une série science-fiction qui a été écrite pour les baby boomers.
Ouais.
Par des baby boomers pour des baby boomers. C'est carrément ça.
Il est à la recherche de la Terre aux autres aussi. Ouais. Recolonisation, etc., etc.
Pour repopuler 6 milliards de tatas. Comme dans une galaxie près de chez vous.
qui est d'ailleurs un peu inspiré de notre sujet. Comme une galaxie près de chez vous est une parodie enfantine de Star Trek.
De Star Trek. Et oui, effectivement, il y a aussi un peu de Star Wars. Il y a un épisode en particulier, Le Retour du Jedi, qui a été inspiré de Star Wars, qui était très, très comique.
Ah, je sais pas, j'ai écouté que quelques épisodes
de ça aussi. De toute façon,
c'est pas une série très intéressante. Moi, même un gars de 31 ans a écouté ça.
Il n'y avait rien d'autre à télé.
D'ailleurs, comme on rappelle, on a deux laissez-passer à faire tirer pour la première, où les acteurs seront possiblement présents, donc si ça vous intéresse. Lâchez-nous un appel, un message MSN à studio@commercialswendirect.com ou à
swendirect@commercialmail.com pour Messenger.
Ouais, mais là je disais l'email.
Okay, pour l'email. L'email c'est studio.
Ouais,
@commercialswendirect.com.
Exactement.
Pardon.
Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Des emails? On a des emails par rapport au sujet aussi.
Tout à fait. Je vais aller récupérer nos emails.
J'espère juste qu'on va être capable de tout répéter. Qu'est-ce qu'on a répété ce soir?
Ok,
c'est bon. Donc, mais on va avoir un autre spécialiste de Star Trek. Je pense que Brian écoute beaucoup Star Trek. Ça se peut-tu?
C'est pas impossible qu'il écoute un peu Star Trek, effectivement. Il y a Guillaume qui nous a contactés. Alors, pourquoi aimer Star Wars et Star Trek? Ce sont deux univers différents. Ils ont apporté tous deux à leur manière un édifice à la science-fiction. Star Trek, par son futur potentiel et les technologies développées, qui maintenant commencent à apparaître vraiment 30 ans plus tard, Star Trek est très scientifique. Star Wars nous fait découvrir un univers magique, plein de robots d'extraterrestres, une lutte bien contre le mal, bien prenante. Je suis fan des deux car ce sont des monuments de la science-fiction, ce sont des classiques télé pour Star Trek au départ et du cinéma pour Star Wars. Ils apportent le divertissement ainsi qu'une réflexion philosophique chacun. Star Trek, réflexion philosophique, je suis pas certain.
Réflexion scientifique, oui.
Réflexion scientifique, ça je suis d'accord. Réflexion philosophique.
Bon, il doit un peu aussi philosophique, parce que si je me rappelle bien, même sans l'avoir écouté, il y a des passes assez weird avec Dieu puis des.
Dans la série originale, effectivement, il y avait plus de morale aux histoires. Dans les.
Il n'y a pas une série qui avait comme un ultime créateur dans
Star Trek.
Il
y a un film, en fait, qui s'appelle The Final Frontier, qui est le cinquième film de Star Trek, qui est sorti en 1989. Qui, justement, ils vont passer la barrière de l'univers et se ramasser sur une petite planète où ils vont rencontrer, supposément, Dieu.
Okay.
Et ils détruisent la planète, donc ils détruisent Dieu, donc c'est l'enfer total. C'est le cinquième film, donc un des mauvais films.
Okay.
Par défaut, et effectivement, mm-hmm. Ce n'est pas un...
Ici, Jaina qui dit, ben, Luke a quand même une évolution dans le film. Il est naïf au début, à la fin, il est un vrai Jedi. C'est sûr, mais c'est pas très expliqué.
L'est-il vraiment? Telle est la question. L'est-il vraiment un vrai Jedi? À la fin.
Il se déclare Jedi, mais...
C'est ça, c'est une autodéclaration, un peu comme moi, je suis un grand maître Jedi, mais...
comme Palpatine est un empereur.
Exactement. Non, mais lui, il a eu l'aide de Jar Jar Binks. Moi, j'ai pas de Jar Jar Binks pour m'aider. Quoique, Brian... Enfin, il y a Alpha Blast qui nous a envoyé un email aussi. Son opinion sur le sujet de Star Wars versus Star Trek, c'est que les deux séries sont excellentes, mais la différence entre les deux, c'est que Star Wars est un mélange de science-fiction et de fantasy, la science-fantasy comme on le disait plus tôt, et que Star Trek est plus basé science-fiction. De plus, il y a surtout des films de Star Wars et Star Trek qui ont eu plus il y a surtout des films de Star Wars et Star Trek a eu plus d'épisodes car c'est une série télé et qui a aussi eu beaucoup plus de films qui ont découlé de cela. Par contre, Star Wars a un univers étendu plus vaste que celui de Star Trek. Je trouve que c'est là que Star Wars rattrape Star Trek. De plus, la saga Star Trek se déroule dans tout l'univers, tandis que celle de Star Wars se déroule dans une galaxie très lointaine. Ce qui donne à Star Wars un côté mythique et légendaire. C'est ça que j'aime dans un film. C'est vrai que c'est intéressant de voir le fait que
il y a plusieurs différences entre les galaxies des deux des deux séries, tant des films que des séries télé. Alors on va appeler Michael Skywalker en direct, mesdames et messieurs.
Je crois qu'on va le prendre un petit peu par surprise à cause du délai, bien
effectivement.
Sûr. Et on va voir s'il va répondre.
Oui, bonjour.
Ça va bien, Michael?
C'est bien, toi?
On te prend-tu un petit peu par surprise?
Non, non, j'étais préparé.
Donc, allez, vas-y sur le sujet. Est-ce que tu es un fan de Star Trek déjà en partant?
Ben, un petit peu, je te dirais. J'ai toujours... Chaque nouveau film qui sort, je l'écoute. C'est sûr, j'aime mieux les plus anciens, comme un peu la majorité des fans de Star Wars, on aime mieux les vieux films. Mais au départ, oui, j'aime bien Star Trek. J'aime pas autant que Star Wars, c'est sûr. Mais j'aime bien gros. Je suis un gros fan de science-fiction, donc ça rejoint un peu.
Qu'est-ce que t'aimes dans les deux séries?
Ben Star Wars, c'est plus le côté chevalier, puis héros, puis la force en tant que telle. Là, c'est beaucoup de fiction, c'est ça qui m'intéresse.
C'est beaucoup mythique. Ben, t'es vraiment un héros dans Star Wars. Dans Star Trek, c'est qui le héros, c'est quoi?
Ben, j'aime bien gros Spock, je vais te dire.
Dans les séries, en tant que tel, le héros serait le capitaine.
Ok, c'est toujours le capitaine.
C'est pas mal toujours le capitaine, effectivement.
Ah.
Tant dans Voyager, c'était Capitaine Janeway. Tant c'était Jean-Luc Picard dans Next Generation. Tant c'était nul autre que notre cher ami William Shatner, le capitaine Kirk, dans James T. Kirk, dans la vieille série. Ça reste toujours, lui, le héros majeur de la série.
D'accord.
Continue, Michael.
Vas-y, Michael.
Ok, ouais, ben ça, j'aime bien gros Spock, là. C'était... je me souviens d'une série où il y avait toujours des commentaires du type fascinant, extraordinaire. Il y avait toujours les petits commentaires.
Les qualificatifs.
Oui, c'est ça, tu sais, c'était vraiment poche comme réponse, là, mais c'est toujours drôle, ça. Je riais bien.
Puis.
C'est pas très divertissant, là. C'était pas comme Star Wars, là, mais ça. J'aimais bien, gros.
Puis l'autre question, qu'est-ce que. D'après toi, l'impact de chacune des sagas sur la science-fiction?
À mon avis, je crois que Star Wars a un plus gros impact. Donc, ça a été plus innovateur dans le temps. Star Trek a eu sa part aussi, parce que, je veux dire, dans le temps qu'il y a eu un gros vide Star Wars, Star Trek était toujours là, puis ça a un peu...
ça a assouvi les fans de Star Wars un peu, peut-être.
Qu'est-ce que tu dis?
Peut-être que Star Trek a assouvi un peu l'appétit des fans de Star Wars.
Peut-être aussi. C'était un peu une continuité dans la science-fiction. Il y a les vaisseaux spatiaux et tout le kit. C'est impossible.
Ça, peut-être le fait que les fans de Star Wars savaient qu'il n'y avait plus de films après Return of the Jedi, qu'il n'y avait plus rien. Ils ont dit, bon, on va écouter Star Trek à la place. Donc, Star Trek a peut-être profité de cette vague d'ex-fans de Star Wars pendant un petit bout de temps, peut-être?
Oui, je crois. Mais je crois qu'au départ, tout ce qui est science-fiction aujourd'hui a profité du phénomène Star Wars au début. C'est Star Wars qui a lancé la science-fiction. C'est sûr que, on se rappelle de l'Odyssée de l'espace qui a parti le mouvement un peu, puis Star Wars a profité un peu de ça. Ça a commencé avec ça, je trouve. Mais c'est vraiment Star Wars qui a donné le ton à la science-fiction, puis... Les autres émissions, les autres mouvements, ça, ont profité positif pour la science-fiction. Puis,
oui, ont profité de l'absence de Star Wars. On va en profiter.
Oh, oui.
On fait de l'argent au lieu de George Lucas.
Ben oui, c'est ça.
Quand même, c'est vrai. C'est vrai que Star Wars, Star Wars, c'est plus l'innovation, comme tu dis.
Je dirais ça.
Parce que la science-fiction était là, mais c'est juste que ça l'a... Maintenant, toutes les autres séries par le suite devaient être améliorées.
Ils ont évolué à partir de Star Wars, mais chacun était dans les bras différentes un peu, mais je dirais le noyau de tout, c'est George Lucas qui l'a développé, puis il a donné un ton à la science-fiction.
Bon, ben, c'est super. Merci de tes commentaires, Michael.
Bien.
On se reparle.
Parfait.
Bye-bye.
Salut.
C'était nul autre que Michael Skywalker, cher ami du chat.
Ouais. Il était dans le chat à peu près une minute avant qu'on l'aille en onde. Il reste un dernier email, je crois.
Tout à fait. On a reçu un courriel de Anne-Laure.
Surprenant. Au Québec, on dit un courriel. En France, on dit un email.
Du courrier électronique.
À savoir.
C'est un courrier électronique. Et voilà, on va régler le problème comme ça. Putain de Québécois. Donc, Anne-Laure, qui a 16 ans, nous dit qu'elle est fan de Star Wars depuis plus de 2 ans maintenant et de Star Trek depuis seulement 1 an. Son père est un grand fan de science-fiction et elle a grandi avec les 2 sagas. Donc, elle est devenue fan depuis quelque peu de temps. Il est très difficile pour elle de les comparer, mais elle va essayer de nous expliquer pourquoi elle les aime. Alors, tout d'abord, Star Trek. Honneur aux anciens, car s'il y a bien une série de science-fiction culte, c'est celle-là. Depuis les années 60, elle s'impose comme la série de référence qui a révolutionné le genre de l'anticipation et qui a innové, n'en déplaise à certains. Cela n'est pas sans raison. Gene Roddenberry a imaginé le futur de notre Terre comme celui de l'exploration spatiale, car c'est bien la dernière frontière physique à laquelle on peut s'attaquer. C'est la première fois à la télévision que l'on n'osait faire côtoyer dans une même histoire des Noirs, des Asiatiques et des Blancs.
C'est vrai.
Star Trek a même déclenché la polémique en créant une relation romantique entre une Noire et un Blanc, entre Uhura et Scotty. Faire évoluer l'humanité, c'est de s'unir dans un même but. En effet, Star Trek a pour origine l'arrivée d'une race extraterrestre sur la Terre, alors en pleine crise, et la découverte de la vie extraterrestre unifie les hommes comme jamais on ne l'aurait cru possible. En un siècle, la maladie et la pauvreté sont éliminées, les frontières élargies, et c'est ainsi que naît par exemple la Fédération africaine. Eh bien, je crois que c'est cela qui me plaît le plus dans Star Trek, et qui n'avait jamais été fait avant. Pour explorer l'espace et découvrir de nouvelles formes de vie, il faut que l'humanité soit déjà unie et que nos querelles intestines résolues. Car créer des liens avec un peuple extraterrestre, si l'on ne parle pas au nom de l'humanité tout entière, mais celle d'un pays seulement, ça c'est la véritable signification que Star Trek pour moi. Et ça me fait prendre conscience d'une chose, il ne faut pas gâcher notre futur dans l'espace à cause de guerres inutiles et de conflits entre personnes d'une même espèce.
C'est un peu aussi le concept dans Independence Day, quand les extraterrestres attaquent la Terre, tous les pays se mettent ensemble pour se battre contre l'invasion.
Contre l'invasion extraterrestre, effectivement. Exactement. Et comme par hasard, ils parlent tous encore le morse.
Exactement. Évidemment, c'est les Américains qui mènent.
Et oui.
Dans ce...
Donc, passons donc maintenant à Star Wars. Moi, je suis d'accord avec elle pour retourner sur ce qu'elle disait pour Star Trek. C'est vrai que il y en a présentement ici qui se battent pour 200, 400, 500 mètres de terre qu'ils utiliseront même pas en tant que tel pour l'instant présent. Arrêtez de vous battre pour un chouillon de poussière.
Un petit terrain. Ouais.
Utilisez ce que vous avez, exploitez le bien. Après ça, on en reparlera de ces autres terrains-là. Moi, je dis qu'il devrait y avoir des Jedi aux Nations Unies.
Un Français qui nous défend, celui qui dit, et on dit que les Québécois font mal aux Français.
Alors, on va passer à Star Wars maintenant pour Anne-Laure. C'est dur de décortiquer et d'analyser des sagas qui vous sont chères, comme de simples sujets d'étude. Star Wars est une saga à part entière, avec une véritable mythologie. Alors que Star Trek est plus un futur probable. Star Wars a ses héros, ses légendes, sa religion. C'est une autre réalité tout simplement. C'est tellement plus qu'un simple film. On pourrait comparer ça à l'histoire, mais on pourrait comparer ça au Seigneur des Anneaux en fait, qui est lui aussi plus qu'un simple livre. C'est une vie qui pourrait être réelle car elle a sa propre société et son histoire. On peut la faire évoluer comme on veut. C'est ce que j'aime dans Star Wars, sa richesse inépuisable. Elle n'a pas de fin, on peut toujours ajouter quelque chose, elle n'est pas figée dans un film, mais c'est également une sorte de mythologie grecque, je pense. Toute civilisation repose sur une mythologie, et Star Wars en est une. Aujourd'hui, les films qui essaient de retrouver le souffle lyrique des grandes épopées ou des péplums se plantent misérablement. Car on tombe toujours dans le moralisme bas de gamme, ou au contraire, on en fait tellement que tout le reste est écarté par un film incomplet. Star Wars est une rare saga à avoir su éviter cela, car il n'y a pas que la force, il y a l'aspect politique, l'aspect humain, l'aspect mystique. Et c'est ce qui rend crédible aux yeux du grand public. Elle est assez complexe pour ressembler à notre vie. C'est tout à fait vrai que Star Wars est aussi compliqué que nos vies. En tout cas que la mienne. Alors, elle aimerait encore beaucoup dire beaucoup d'autres choses, mais en France, il était tard au moment où elle nous a envoyé son courriel.
C'était
Anne-Laure de Blois. Merci beaucoup. Et voilà. Et voilà, on n'a pas reçu d'autres courriels. Je le confirme.
Donc, on peut conclure donc là-dessus, sur le sujet principal.
C'est de voir si... Ah oui, ben en fait, ce que je voulais dire rapidement, c'est que on a pu voir l'impact des séries comme Star Wars et Star Trek dans les années 80 surtout, avec plusieurs séries qui sont sorties du Japon et d'autres lieux, comme quand on regarde la série Thunderbirds de
Sentinelle de l'air
de Gillian Anderson, exactement. Quand on regarde le fameux Bomber X qu'on parlait tout à l'heure, qui fait partie de la fédération Starfleet,
ouais. Inspiré donc, Star Trek.
Exactement, mais qui fait un petit robot. Mais le vaisseau X-Wing est du même type que les films de Star Wars. On voit un type usé des films de...
Des carlingues, des carcasses de...
Qui sont
un vraiment... châssis...
Combat Damage.
Ouais, c'est ça, là. Qui ont du vécu.
Qui ont du vécu, c'est ça. On voit qu'ils ont servi. Quand on regarde, par contre, Star Trek, c'est toujours propre. Le vaisseau peut se faire complètement éclater la soucoupe dans un film. Et deux épisodes plus tard, dans la série
tout
télé...
Tout propre.
Et voilà, tout propre, tout est revenu au complet. D'ailleurs, il y a eu une petite blague qui a été faite avec ça dans la série Enterprise. Au début de la série, il se tape sur la coque du vaisseau avec une petite nacelle de transport. Et un petit peu plus tard, dans la première saison, ils arrivent sur un dock qui peut comme tout régénérer le vaisseau super bien, super rapidement, en échange de quelques pièces.
Repeinturer, etc.
Absolument tout bien réparé. Et ils trouvent justement cette petite marque qui a été faite par la nacelle. Donc, ça c'est remarqué de l'ingénieur et du capitaine. Le capitaine dit « Je t'avais pas dit de le régler, justement, cette rayure-là. » Oui, mais on n'a pas eu le temps, finalement. Donc, c'est petit fait comique de la série Enterprise, justement, qui remarque ça. L'autre site web sur lequel je vous dis d'aller faire votre tour, c'est le site de Jeff Russell.
Oh, très intéressant.
Dimensions des vaisseaux de toutes sortes de galaxies. Alors, il y a beaucoup de polémiques qui ont été élevées tant qu'à qui est-ce qui gagnerait si les vaisseaux de Star Trek
affrontaient les
vaisseaux de Star Wars. En tout cas, au niveau de la taille, je m'excuse, mais les vaisseaux de Star Trek se font éclater. Cependant, les vaisseaux de Star Trek, avec la téléportation, peuvent faire éclater les vaisseaux de Star Wars assez facilement. Donc, faut que les vaisseaux de Star Wars puissent s'en prendre d'un vaisseau de Star Trek et faire apparaître des bombes dans un petit peu toutes les autres vaisseaux Star Trek.
Ouais, c'est ça.
Et voilà.
Mais vous avez toutes sortes d'images de vaisseaux à l'échelle, à différentes échelles. Allez voir ça, c'est assez impressionnant. De très belles images.
Alors, c'est le www.merzo.net. Et je vais le remettre dans le chat. merzo.net. Et voilà. Sur ce, petite pause musicale.
Yes. Et on revient après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars, avec un petit sujet ouvert. Donc, si vous avez des suggestions, si vous pouvez toujours nous les envoyer dans le chat ou par MSN. À tantôt.
Change, but you might- wears the crown. I love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't understand when I'm attempting to explain, because you know it all and I guess things will never change. But you might need my hand when I'm falling in your hole. Your disposition I'll remember when I'm letting go.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés. Nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Hi, this is Steve Sansweet, and you are listening to Star Wars en direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Bon, comme sujet ouvert, de quoi qu'on va vous parler? On va parler en gros de Star Wars Shop, l'expérience à Sébastien. Oui, qu'est-ce qui est arrivé durant la fermeture
En fait, l'attente de l'ouverture et la fermeture par la suite.
On va parler aussi des changements au fan club nord-américain. Il y a des gros changements en préparation inconnus qui ne sont pas dévoilés, puis on va spéculer là-dessus. Vous nous avez demandé Clone Wars, donc on peut parler des deux premiers épisodes rapidement, malgré qu'on va avoir une émission complète là-dessus au mois de mai, donc on va y aller très en surface.
Exact.
Et puis si on a d'autres sujets, on poursuivra par la suite. Donc, expérience Star Wars Shop. Moi, j'ai pas attendu pour parce qu'il donnait aux premiers
les 500 premiers clients de StarWarsShop.com recevaient.
Pour ceux qui savent pas, c'est quoi StarWarsShop.com? C'est le nouveau magasin officiel de Lucasfilm
en ligne.
En ligne. Le nouveau magasin en ligne de Lucasfilm. Autrement dit, beaucoup d'exclusivités, etc., etc. J'ai l'impression que ça a pour but de limiter les autres vendeurs de Star Wars, puis de garder beaucoup de produits exclusivement pour directement que ça aille dans les poches de Lucasfilm, dans le fond. Pas d'intermédiaire.
On évite le plus possible les intermédiaires. C'est sûr que par contre, ça passe quand même par un intermédiaire qui est, je ne me souviens plus.
Moi, la compagnie qui fait les transactions, mais c'est les transactions seulement. Là. C'est juste l'argent, c'est pas le produit. Le produit ne passe pas dans d'autres. Le prix n'est pas augmenté par un autre magasin, c'est ça que je veux dire.
Non.
C'est juste une compagnie qui gère l'argent.
Exactement. C'est Analyst International qui s'occupe justement de gérer les options de carte de crédit de tout le monde qui passe par là. Donc, grosse histoire. On nous fait vivre un peu une attente avec.
On nous monte un hype.
Nous monte un hype, c'est ça, là, avec des produits qui vont bientôt sortir, qui sont faits par quelqu'un d'inconnu jusqu'à maintenant, qui vont être vendus par quelqu'un d'inconnu jusqu'à maintenant. On parle des pins, on parle de sets d'autocollants de
Ralph McQuarrie. Des statues en bronze ou en étain, je me souviens plus trop, toutes sortes de trucs. Là.
Je pense que c'est ça, une statue en étain des Clone Troopers. Il y a une statue en céramique ou un buste.
Il y avait des grosses statues de Darth Vader qui coûtaient plus cher que les Atacus, il me semble, des trucs du genre, non?
C'est possible, je me souviens pas de l'avoir vu sur le site, en tout cas. Mais j'ai passé très vite. Bon. Le 10 mars dernier, mercredi 10 mars dernier, en fait, non, attends, le mardi 9 mars dernier, je me dis, ben, le magasin StarWarsShop.com devait ouvrir le mardi 10 mars. Donc, offrait aux 500 premiers visiteurs, clients, en fait, une patch Return of the Jedi et une patch Revenge of the Jedi.
Officielle. De 63.
Ben officiel de ouais. Lucasfilm, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est du vieux stock à ce point-là qu'ils ont ressorti en 1983, mais bon. C'est pas grave. Le fait était que il y en a parmi
c'est
nous.
Officiel et non brodé par.
C'est ça, par une compagnie X ou Y.
Ouais.
Bon. Il y en a, c'est sûr, parmi nous qui voulaient absolument avoir les bragging rights. Bref,
le droit d'être venteur,
puis de dire, moi, j'étais dans les 500 premiers. C'est mon cas.
Il y a beaucoup de monde sur la Terre qui voulait être dans les 500 premiers.
Exactement. Donc, je me suis dit, le 9 mars, je me suis dit, je vais attendre jusqu'à minuit. Le site va probablement ouvrir le 10 mars à minuit. Bon. Moi, je suis en temps. Est.
Heure de l'Est.
Minuit arrive, je fais un petit rafraîchissement sur le StarWarsShop.com. Rien. Bon, encore la page qui me dit d'attendre. Bon, j'attends encore un peu, je fais des rafraîchissements comme ça, un petit peu à chaque demi-heure environ. 3h du matin arrive, il est minuit là-bas, je me dis ça va ouvrir.
Non.
3h du
matin. Là, on parle là-bas, dans l'heure du Pacifique.
Dans l'heure du Pacifique, sur la côte
ouest. Où est-ce que Lucasfilm est basé. Là.
Exactement. Donc, je me dis, attends, écoute, c'est quand même assez bizarre. On peut se poser quelques questions. Il est minuit là-bas, mais le magasin qui se devait d'ouvrir le 10 mars n'est pas encore ouvert. Bon. Ils nous avertissaient qu'ils étaient pour nous envoyer un email nous disant n'oubliez pas que le magasin va ouvrir aujourd'hui, blablabla.
Email, que je n'ai jamais reçu.
Email que personne n'a jamais reçu d'ailleurs. Donc, je continue à attendre. Danny se lève à 6h du matin, me croise sur MSN. Je lui lâche un tabarouette, le magasin est toujours pas ouvert.
Moi, je te lâche, qu'est-ce que tu fais là, toi, à cette heure-là?
Exact, de si bonne heure. Et finalement, ben, c'est parce qu'il était 3 heures du matin quand même là-bas. Donc, Danny, ici, me dit, d'après moi, ça devrait ouvrir vers 9-10 heures, heure de la côte ouest.
Heure pacifique.
Heure pacifique.
Donc, midi ici. Là.
Donc, midi, il y a une heure de l'après-midi ici. Donc, je prends mon mal en patience et je continue d'être patient et je continue d'être excité à l'ouverture du magasin, presque autant excité que...
Tu t'endormais pas, toi, là?
Je m'endormais pas, j'étais tout autant excité que...
Trop d'adrénaline.
Ben, pareil que quand j'ai attendu en ligne pour les conventions de Star Wars.
Ou acheter les billets pour le film.
Pour le film, etc., c'était vraiment, là, j'avais hâte là, que ça rouvre pour voir ce qu'ils avaient à offrir. Même si, dans ma tête, mon plan était déjà fait, c'était tout de suite les autocollants. Et puis on achetait, et voilà, c'est fini, on n'en parle plus.
Tu avais pris la chose la moins chère pour...
C'est ça, la chose la moins chère pour être sûr d'être dans les premiers 500 clients. Bon, continue à faire des rafraîchissements. Mon ordinateur qui est un petit peu fatigué, j'ai décidé de le fermer pour le redémarrer après avoir installé un petit programme. Il était rendu environ 9h du matin, donc 6h du matin là-bas. Et je me dis, bon, je vais repasser sur le site. Je passe sur le site est ouvert, je me précipite, je m'en vais chercher mes autocollants tout de suite, j'essaie avec la compte avec laquelle je m'étais inscrit au courriel, ça fonctionne pas, je prends pas de chance, je refais un autre compte, je repasse par les autocollants, je m'achète mes autocollants, je reçois un set de cartes en plus tops gratuit, en plus des deux badges, donc j'étais dans les premiers 500.
Yeah.
Hourra, je peux dire
mission accomplie.
Que j'étais dans les premiers 500 clients de StarWarsShop.com. Donc, en même temps que je finissais ma transaction, le téléphone sonne, évidemment. C'était notre cher ami de Gros Popcorn qui me donnait les pages justement pour le film Dans une galaxie près de chez vous. Et je finis ma transaction pendant que je parle avec elle au téléphone. Je finis de parler avec elle, je finis ma transaction, j'appelle Danny.
Sur mon cellulaire au travail.
Sur son cellulaire au travail, juste pour le déranger, pour lui dire qu'on avait les passes pour la première du film Dans une galaxie près de chez vous, mais aussi pour lui dire que j'étais dans les 500 premiers clients de StarWarsShop.com.
Évidemment.
Évidemment. Faut partager ça avec un autre fan. Donc, je décide de retourner sur le site à environ 10 heures du matin. Je fais le tour du site. Un site qui était très intéressant, très bien monté, avec beaucoup de marchandises.
Visuellement, est-ce que ça ressemble un peu à la page temporaire ou ça ressemble beaucoup au nouveau look du site officiel?
C'est dans les mêmes couleurs que la page temporaire. Ça a plus... Ça a pas vraiment le look du site officiel. Ça a presque le look encore du site qui est là présentement, StarWarsShop.com, la bannière qu'on voit en haut avec le fameux TIE Fighter X-Wing dont on parlait un petit peu
plus
tôt.
Parce que ça, c'est quand même le look...
Ça reste assez rectangulaire.
C'est ça, de StarWars.com avec les grandes bordures larges, les cadres.
Mais on n'a pas 40 millions de menus avec des bordures un petit peu coupées au biaisé, coin, le biaisé au coin. C'est vraiment bien organisé, rectangulaire. Là, on peut pas...
Clair, net et précis.
C'est clair, net et précis, exactement. Toutes les marchandises sont séparées dans différentes catégories. Il y avait plusieurs produits qui étaient là. Il y avait des montres, même des montres assez coûteuses.
Il y avait des livres autographiés.
Il y avait effectivement des copies de Tatooine. Voyons. Le dernier livre de
Survivor's Quest,
le dernier livre de Timothy Zahn, autographié par lui-même, qui était une cinquantaine, une soixantaine de dollars, je ne me souviens plus exactement. Les prix sont évidemment en dollars américains, US. Il y avait un Kermit the Frog Indiana Jones Adventure qui était là. Il y avait quelques nouveaux produits, dont le fameux Yoda, Ask Yoda the Question, là, qui était déjà en vente sur le site. Des tonnes de produits comme ça, des jeux vidéo. Vraiment, tout était là. Et puis...
Ça va remplacer le Banta...
Le Cargo Bay, je crois.
Le Cargo Bay.
Sur StarWars.com. Fort probablement, oui. Effectivement. Donc, je me promène comme ça. Puis, soudainement, je décide d'y retourner vers environ midi. Le site est fermé. Je retrouve la même page d'attente qui dit le site va ouvrir le 10 mars. Soyez patient, blablabla. Là, je commence à me poser des questions.
Bien entendu.
Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai envoyé un courriel à Steve Sansweet, justement, chez Lucasfilm. Est-ce que j'ai été parmi les quelques premiers chanceux qui ont bêta-testé le StarWarsShop.com? Il me retourne un email pointant sur Rebels.com, assez curieusement, avec un communiqué de presse de Lucasfilm, mm-hmm. qui explique qu'il y a eu certaines informations personnelles qui ont été envoyées à des tiers parties, mm-hmm. et que ils ont arrêté les transactions immédiatement quand ils se sont rendus compte de cela, pour justement régler le problème de sécurité. Mm-hmm. Par contre, il n'y a pas eu aucun.
C'est pas des numéros de carte de crédit qui ont été envoyés, des adresses.
C'est ça. En fait, ce qui s'est passé selon moi, et c'est de la pure spéculation, c'est que les fans qui ont commandé recevaient un accusé de réception, un bon de commande,
confirmation.
Et selon moi, ce qui s'est passé, c'est que certains fans ont reçu les bons de confirmation d'autres fans. Okay. Moi, j'ai reçu le mien, j'ai pas eu de problème. Je sais pas si quelqu'un d'autre a reçu le mien. c'est à se poser des questions. Mm-hmm. Mais moi, j'en ai pas reçu de personne d'autre. Donc, c'est peut-être des personnes qui ont fait leur transaction exactement en même temps, ce qui aurait mélangé les serveurs. On ne le sait pas. Mm-hmm. Ce que Steve Sansweet m'a assuré, par contre, c'est que les serveurs ont bien tenu le coup à toutes les visites qui sont...
Ils n'ont pas eu de problème de surcharge de serveurs.
Absolument aucun problème au niveau de surcharge de serveurs. Donc, on remarque effectivement le petit hic. Le lendemain, si je ne me trompe pas, je pense que c'était le 11 mars, justement, on se fait dire... sur la page de StarWarsShop.com le message suivant. Je vais vous le lire directement du site officiel qui est StarWarsShop.com, évidemment, encore. Shortly after our new StarWarsShop.com opens Wednesday morning, March 10th, we received emails from several customers indicating that some transactional information on the individual's order had been transmitted to others. Ce que je viens d'expliquer. En fait, il y a des informations qui ont été transmises à d'autres tiers. Donc, je vais le traduire directement, ça va être moins compliqué. Nous avons donc immédiatement fermé le site, dû à des raisons de sécurité, évidemment. Toutes les commandes qui ont été envoyées à nos fans sont notre priorité majeure. Notre partenaire en e-commerce, en e-business,
un commerce électronique,
exactement, analyste international, nous a assuré qu'aucune information personnelle de carte de crédit n'a été compromise. Nous sommes vraiment désolés et surpris que ce problème se soit arrivé. Nous travaillons très prêt avec Analyst International, qui est responsable des transactions du site, pour savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc, nous ne réouvrirons pas StarWars.com avant d'être certain que tous les problèmes ont été résolus. Donc, en résultante, nous ne ferons aucune transaction, nous ne procéderons à aucune des transactions qui a été commandée mercredi matin. Vous devrez placer votre commande encore une fois lorsque le magasin réouvrira. Cependant, c'est là que ça devient quand même très intéressant pour tous ceux qui ont commandé comme moi le mercredi matin de très bonne heure. Tous les clients qui ont placé une commande avant que le site ne soit fermé se verront envoyer gratuitement les Return of the Jedi et Revenge of the Jedi
patchs.
Ainsi qu'un certificat cadeau de $50 à utiliser sur de la marchandise Star Wars sur StarWarsShop.com.
US, bien sûr. Star Wars, $50 US.
$50 US.
Je ne sais pas si vous calculez rapidement, mais $50 US fois 500 personnes qui ont les patchs, ça fait $25,000 US. Qui donne en cadeau...
ça fait cher.
Notre
correspondant américain Nathan Butler, mm-hmm. Nous a confirmé le fait qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas eu les patchs quand ils ont commandé, mm-hmm. mercredi matin. Donc, il y a même plus que 500 personnes.
C'est ça.
Donc, j'ai hâte de voir
les résultats. Beaucoup d'argent, c'est un cadeau.
Exactement.
On s'excuse, on ouvre notre portefeuille.
C'est cela. Nous allons donner à la communauté Star Wars, bien sûr, suffisamment de...
d'informations?
Ben, en fait, d'avance, okay. on va vous donner l'information quand le site va être sur le point de réouvrir. Encore, nous excusons, blablabla. Bon. OK. Selon moi, ils sont dit, on va échapper à la poursuite de masse, à la poursuite judiciaire de masse. On va leur donner 50$ et bon, ça va faire pardonner un peu tout ça. Évidemment, ils nous confirment qu'il n'y a pas d'informations de carte de crédit.
Est-ce que c'est vrai?
Avec ce qui s'est passé ici au Canada à Equifax, qui est une compagnie justement de traitement de carte de crédit, qui a plusieurs informations qui ont été volées. Mm-hmm. On parle ici de millions d'informations de carte de crédit, là, de millions d'individus canadiens. C'est assez effrayant, là. Puis c'est arrivé presque en même temps, donc c'est à se poser des questions. Mais ça n'a aucun rapport, donc on devrait être sain et sauf.
La chose qui est à noter, surtout pour ceux qui ne sont pas américains.
Oui.
Ils se sont associés avec UPS pour la livraison des...
FedEx. En fait, Star Wars, ben, je pense que c'est Lucasfilm qui doit avoir un contrat d'exclusivité avec Federal Express. Et... toutes les transactions internationales, évidemment, vous devez payer frais d'envoi, les frais de port et manutention. Ouais. Ces frais-là, pour le Canada, sont de 15$.
US,
tout de suite au départ. Donc, moi, j'ai commandé des autocollants, un set d'autocollants 10$. J'avais un 15$ à payer en frais de port et manutention. Exactement. Ça revenait donc à 25$.
Des collants que si tu posterais par la poste normale, ça te coûterait...
Un timbre. Donc, moi, enfin, bon, ça me dérange pas trop. Mm-hmm. Je viens de me faire 25$ US.
Mais, étant donné qu'il était dans les 500 premiers, ou peu importe les transactions
Les premières personnes à passer des commandes sur StarWarsShop.com.
Ça passe, mais toutes les transactions futures que les personnes vont avoir, 15$ US de transport, c'est aussi bien d'en acheter pour beaucoup. Là.
Exactement. À 15$ à ce moment-là, là, je vous conseille d'en acheter... au moins pour l'équivalent. Là. Sinon, ça vaut presque pas la peine.
Tu vas le payer en taxes au Canada quand ça
va passer les douanes ou quoi que ce soit. Quand on regarde encore sur le site, le 18 mars dernier, ils ont fait une petite mise à jour. Ils sont encore en train de travailler sur la sécurité du site, évidemment. Ils travaillent très durement là-dessus. Et ils vont... redonner leur plan en avance avec le plus d'avance possible aux fans. Le fameux email qu'on aurait dû recevoir de toute façon à l'ouverture qu'on n'a jamais vraiment reçu.
Ils ont encore nos emails, j'imagine, donc.
Fort probablement. L'équipe du StarWarsShop.com essaie de mettre en place un plan qui permettrait aux clients qui ont placé des commandes le mercredi matin d'être les premiers en ligne certaines exclusivités comme le buste du clone trooper vert.
Ouais, comme on mentionnait tout à l'heure dans les nouvelles diverses, là, justement. Là.
Exactement.
Ils vont garder les priorités de ceux qui avaient commandé ces items-là.
Exact. Puis même de ceux qui ont commandé ce matin-là, tout en particulier. Donc, je suis très content. J'ai bien fait de passer une nuit à être impatient.
Ça évite en effet des poursuites.
Effectivement.
Parce que ça aurait probablement coûté plus cher que qu'est-ce qu'ils vont avoir donné.
Ouais, tout à fait.
Juste en frais d'avocat.
Juste en frais d'avocat, tout à fait. C'est assez. Je pense que c'est un bon move là, qu'ils ont fait, là, donner un 50$ qui est, en tout cas, je pense que c'est presque rien là, pour eux là, quand on regarde la marchandise qui tourne en règle générale dans les 25-40$ facilement.
C'est comme donner 2-3 figurines à chaque
personne. À chaque personne. C'est ça. Donnez-nous donc tout un George Circle, puis on va être content.
Ben oui.
Donc.
Back to the print.
Exact, oui. Je vais faire quand même une petite recherche sur StarWarsShop.com parce que je suis curieux de voir le serveur où il est situé.
OK. Savoir s'il est vraiment à Los Angeles ou s'il est à New York, peu importe.
Si je me trompe pas, j'avais regardé, puis il était à New York. Je vais quand même rechercher. Alors,
comment tu fais cela?
Alors, pour ceux qui veulent un cours de Windows pour faire des recherches, la commande traceroute permet de retrouver sur quel, ben, où est situé le serveur d'un site web. Donc, pour ce faire, vous allez dans le menu démarrer et vous
pas besoin, là.
Et vous faites la commande exécuter. Puis, dans la commande de Windows, vous tapez la commande trace rt espace et l'adresse du site web ou même le IP du site web dont vous voulez rechercher.
Et le avec... IP, j'imagine, est plus officiel.
C'est un peu mieux. Ce que ça vous permet de faire, c'est de voir par où passe votre ordinateur et vos signaux pour retrouver justement...
Jusqu'à la dernière entrée, dans le fond.
Jusqu'au serveur du site où vous allez. Donc, tu vois, nous, en général, il va faire 30 bons sur le réseau Internet. Et quand on regarde, ici, on voit qu'il est passé alors à New York par le serveur de Téléglobe. New York, Chicago, Détroit.
Atlanta, non, Détroit encore.
Donc, il serait à Détroit, le serveur.
Bon. Tiens donc.
C'est intéressant de savoir que le serveur de StarWarsShop.com se trouve à Détroit. Mesdames et messieurs. Et voilà.
Bon, l'autre sujet qu'on voulait aborder, c'est les changements au fan club nord-américain. Ceux qui ont été sur paizo.com.
Exactement, paizo.com.
Ont remarqué que depuis, le 8 mars, 12 mars, le site, le fan club officiel de Star Wars a stoppé les enregistrements au fan club. Carrément stoppé. Ils ont décidé... Ils n'ont pas dit pourquoi, mais ils ont complètement stoppé les enregistrements. On ne sait pas pourquoi. On imagine une restructuration quelconque. Les abonnés vont quand même recevoir leur insider. Ça, ça ne change pas.
Exactement. Les insiders vont être envoyés le 19 mars prochain.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait supposer par rapport à ça?
C'est le 8 mars,
effectivement,
que ça s'est passé.
Donc, qu'est-ce qu'on peut supposer par rapport à ça? Ma théorie, c'est que ils vont probablement fusionner la base de données du fan club tout en gardant les publications Donjons et Dragons, peu importe, mais fusionner la base de données des membres du fan club avec Hyperspace et StarWars.com pour que tout soit au même endroit. On le voit avec StarWarsShop.com. Ils essaient encore de centraliser autour de StarWars.com. Le fan club serait encore à StarWars.com. Tout serait autour d'un seul et unique site au lieu d'avoir différentes bases de données un peu partout. Donc, ils pourraient faire des liens facilement et puis tout serait à un même endroit. Et puis, qu'est-ce qui me fait penser à ça surtout, c'est que pour la célébration Star Wars qui est la célébration 3 de Star Wars qui est organisée par le fan club, justement, on nous dit que va falloir...
Ben, avec l'aide du fan club.
Avec l'aide du fan club et StarWars.com, on nous dit qu'il va falloir acheter nos billets en ligne. Donc, et puis qu'on va avoir des spéciaux si on est abonné à Hyperespace et ou au fan club, ou Insider. Donc, s'il faut transactionner avec des bases de données externes, c'est beaucoup plus difficile que si on a transactionné si tout est sur la même base de données. Donc, selon moi, ils ont fermé les enregistrements de Paizo pour tout mettre au même endroit. Donc, quand va venir le temps d'acheter nos billets pour la célébration et d'avoir nos rabais associés au service Hyperespace ou au fait qu'on est abonné au fan club, que tout va se faire facilement au même endroit, qu'il n'y aura pas besoin d'avoir de transactions externes qui pourraient être des failles de sécurité éventuelles, on ne sait pas. Donc, c'est comme ma théorie, moi, à moi.
Je suis d'accord avec toi un peu.
Parce que j'essaie de voir une autre raison pourquoi ils feraient ça. Même refaire le site web, je pense pas qu'ils ont stoppé leurs autres magazines.
Ben en fait, tu vois, c'est ça que je voulais mentionner. Ils ont vraiment pas stoppé leurs autres magazines parce que, pour ceux que ça intéresse, la science-fiction, justement, comme on en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission, ils vont sortir un nouveau magazine qui s'appelle Amazing Stories, qui, on s'entend, ils disent même sur le site, c'est un magazine qui a été publié en 1926 pour la première fois, qui était un recueil de science-fiction.
Puis qui se sont servis pour faire une série télé aussi. Il y avait une série télé, ouais. Amazing Stories.
Et là, ils ramènent encore Lisa Stevens. Je lui lève mon chapeau. C'est une femme géniale.
Businesswoman.
Ah, oh, ça me fait suer qu'elles sont mariées presque.
Surtout pour avoir le Death Star Theater.
Surtout pour avoir le Death Star Theater. Mais.
C'est des maisons Death Star qu'on parle, bien sûr.
Exactement. Bon, ben, vous voyez, je viens d'aller sur le site de Paizo.com et ils annoncent pour l'été 2004 l'apparition de leur nouveau magazine Amazing Stories. Ils vont avoir une autre publication, puis ils vont avoir un autre abonné. Je pense que je vais m'abonner à cette autre revue qui semble fort intéressante.
Qui est en construction, donc oui, ils vont retaper une partie de leur site.
Mais ça n'a pas rapport avec Star Wars.
Exactement.
Donc, où est le lien? On peut pas dire que ça a rapport vraiment avec le fan club, mais on sait qu'ils continuent quand même à faire des déjeuners. Avec certaines vedettes. Ouais,
les Star Wars Breakfast.
Les Star Wars Breakfast. Les Star Wars.
Ça reste le fan club encore, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que c'est juste une question de base de données et de transactions. Parce qu'ils vont continuer à faire l'insider, ils vont continuer à organiser des événements, etc. Mais juste par question de facilité, probablement, d'ergonomie d'utilisation, ou peut-être même de programmation, et ils mettent ça sur StarWars.com, selon exact. Moi. Parce que c'est peut-être pas pour rien qu'on peut pas acheter nos billets de célébration tout de suite parce qu'ils attendent de bien préparer l'achat en ligne.
Bon, il y a ça, on s'entend aussi qu'il y a beaucoup de détails encore à régler.
Ça, c'est certain.
Par rapport à la Star Wars Célébration 3, mais ça va nous faire en faire toute une émission quand le temps en sera venu.
En effet. Il va falloir attendre en juillet. Après Comic-Con.
Exactement. Mais on va peut-être faire l'émission un petit peu avant pour vous donner un petit aperçu, puis un petit attention, là, ça s'en vient. Préparez-vous, telle date, faites beaucoup de...
Parce que tout va être dévoilé par Lucasfilm à Comic-Con.
Ben, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout va être dévoilé, mais il y a beaucoup de choses qui devraient être dévoilées
Les grandes lignes, tout ce qui a rapport avec les billets, l'hébergement là-bas, parce que vous savez qu'ils ont réservé 2-3 hôtels... à Indianapolis.
Ah, ils ont déjà réservé plus que 2-3 hôtels tout autour du centre de convention. Le mot direct de Stacey Sweet est qu'il va y avoir assez de chambres pour tout le monde.
Donc c'est-à-dire plus que 30 000 chambres de bloquées pour Lucasfilm.
Exact. Mais je pense que Lucasfilm ne sont pas cons non plus. Puis je pense que, admettons qu'il y a 20 000 chambres. C'est suffisant parce qu'il y a beaucoup de fans qui vont dormir ensemble.
Ouais.
Parce que c'est pas tous les fans qui ont les moyens de se payer une chambre à 250$ US la nuit.
C'est ça. On ne sait pas encore le prix non plus. Là.
Non.
Le prix qu'on avait, découvert n'est peut-être pas nécessairement celui qu'on aura.
Ben exact. Ben celui, en fait, moi j'ai une chambre déjà. Pour 5 jours, ça me revient à 1250$.
Ok, t'as outrepassé le...
J'ai réussi à outrepasser.
Ah ouais, mon Dieu.
Je souffre de I need a freaking room right now.
OK.
Donc
je vois ça.
J'ai avec des amis de Toronto, on a déjà réservé nos chambres là-bas. Mais bon, il va y en avoir assez, ça sera probablement pas 1250$. On attend même avec nos amis de Toronto de voir de canceller la réservation là, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas aucun hôtel ailleurs dans le monde, puis surtout pas dans le centre-ville d'Indianapolis qui va bloquer toutes ses chambres. Pour une convention de Star Wars.
Ouais, c'est ça.
Ils pourraient le faire, ils ne perdraient pas vraiment d'argent, mais ils vont garder au moins une cinquantaine de chambres là, pour les clients réguliers.
Donc, nous, on s'attend à un deal, billets et hébergement, ou billets, rabais, hyperespace, hébergement, rabais, billets, rabais, membres du fan club, en tout cas, toutes sortes de combinaisons possibles. Donc, ça devrait être dévoilé en juillet. Toutes ces combinaisons possibles-là et qu'est-ce qui va valoir la peine d'être abonné à Hyperespace ou au fan club, probablement que c'est la même chose. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de super package pour les membres de Hyperespace et du fan club, malheureusement. Mais même dans le futur, je crois que le fan club et Hyperespace vont fusionner. Parce que présentement, les gens s'abonnent pas au fan club, ils s'abonnent au insider. au Star Wars Insider. Le monde se fout carrément du fan club.
Exactement.
Il s'abonne au Star Wars Insider même.
Puis même quand on va sur le site officiel de Pedio.com pour regarder justement les fameux dîners avec les vedettes de Star Wars, le dernier qui a eu lieu, c'était avec Michonne Bourriague et qui d'autre? J'essaie de trouver l'autre vedette qui était là. Bon, c'est sûr qu'il y a Lisa Stevens qui est présente. Mm-hmm. Il y a Dave Gross qui est l'éditeur en chef du Insider. Vic Wertz qui est l'éditeur associé du Insider. Il y avait Michonne Bourriague qui était là. Et qui d'autre? Ben, celle qui joue justement le rôle de Ayla Secura, dont le nom m'échappe pour le présent. Mm-hmm. J'essaie de le trouver. C'est le texte est presque pas juste assez dans ma face. Mais en fait, bon, les billets coûtent quand même 94,95$. Bon, $95 US. C'est donc...
C'est quand même des sorties privées.
Assez cher. Amy Allen, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. C'est quand même $94 qui était disponible seulement du site de Pedio.com et non pas du site officiel. Je pense qu'ils ont décidé de vraiment ramener ça ensemble parce que il y a plusieurs fans qui se sont posé la question: pourquoi vous avez fait deux entités séparées pour commencer? Ensuite de ça, vous avez remis les entités ensemble. Il y a eu un certain temps au début de Hyperspace, on pouvait s'abonner autant à Hyperspace qu'à Star Wars Insiders. Et puis, finalement, on...
Ça s'est reséparé.
Exactement. Ça s'est séparé. Ils ont laissé tomber le deal parce que c'était trop de troubles à gérer ça.
Et donc, bon, il y a trop de troubles, donc pourquoi pas le ramener ensemble?
Exactement.
Mais je ne crois pas que les membres d'Hyperespace vont... Mais supposons qu'ils faisaient une fusion, là. Je ne crois pas que les membres d'Hyperespace vont obtenir un abonnement au Insider automatiquement. Et je ne crois pas que les abonnés au Insider vont recevoir... Un abonnement Hyperespace automatiquement.
Ben, c'est pour ça je crois qu'ils ont arrêté.
Ils vont peut-être avoir un super package, je sais pas.
D'après moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir droit à un paquet pour 39,95 US, incluant Hyperespace et Insider.
Ok.
Pardon.
Tout simplement. Et ceux qui payent les deux, ils payent plus cher?
Ben non, c'est ça, c'est okay. Qu'il va y avoir un seul prix. Ça sera plus soit Insider, soit l'un ou l'autre. Là. Ça va être vraiment Hyperespace et Insider.
Parce qu'il y en a peut-être qui ne voudront pas être abonnés à l'Insider. Ils vont juste vouloir être abonnés à Hyperespace. Mais c'est une façon de faire de l'argent.
À ce moment-là, s'il y en a qui veulent, je pense que les prix vont rester probablement les mêmes dans ce sens-là. Mm-hmm.
Donc, plein de théories superflues, etc. Donc, vous pouvez vous demander les mêmes questions que nous. Mais ça n'implique pas du tout le fan club européen. Donc, le fan club français va rester séparé, probablement. Et puis, étant donné que la publication est différente et produite ailleurs, et puis, probablement que pour Hyperespace, malgré que ça pourrait être compliqué quand même. Hein.
Ça peut être.
Ça peut aller très compliqué s'ils décident de mettre les deux ensemble, là, Hyperespace puis le.
Oui, mais je pense que pour. Tu vois. Les gens de Lucasfilm, ça va être plus simple à gérer au bout du compte. Mm-hmm. Donc, je crois que ça va, ils vont vraiment y aller dans ce sens-là. Moi, je trouve que ça serait une très bonne idée.
Donc, sur ce, on va aller tout de suite à la pause musicale parce qu'il nous reste l'update de la communauté, chronique événement.
Exactement.
Et puis on revient immédiatement après la pause. À Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars avec la chronique événement et la fin de l'émission. À tout à l'heure.
From a rainy Thursday on the avenue, Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.cyclan.net.
Thank you. This is Veronica Whitney Robinson, the author of the Star Wars Galaxy novel, The Ruins of Dantooine, and you are listening to Star Wars on Direct.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On termine l'émission comme d'habitude avec la chronique événement, donc ce qui se passe dans une région près de chez vous.
Exactement. Ben, on va commencer avec le petit concours Dans une galaxie près de chez vous. Alors, on vous invite à venir assister à la première du film Dans une galaxie près de chez vous le mardi 30 mars à 19h au cinéma Quartier Latin à Montréal. Donc, si vous n'êtes pas de Montréal, on espère que vous trouverez le moyen de venir à Montréal si vous gagnez le concours. Si vous êtes seulement intéressé même à venir voir le film. C'est basé sur la série télévisée qui a été écrite par Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, et qui est très amusante quand même.
Ils ont c'est une parodie de Star Trek.
De Star Trek. Puis ils ont même fait une petite parodie de Star Wars, c'est vraiment un moment qui était très drôle. Alors, la question, je vais vous la poser tout de suite, et je vais revenir au concours après avoir fait mes annonces. Alors, combien de Tata est-ce que l'équipage du Romano Fafard doit trouver une nouvelle planète pour héberger? Combien de Tata, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission.
Vous pouvez aussi aller voir la bande-annonce, je crois.
Fort probablement, oui, sur la bande-annonce, vous pourrez trouver l'information. Alors...
Et vous nous envoyez ça par email à studio...
Ben, vous l'envoyez sur le chat ou via MSN. Mm-hmm. Par email, si vous voulez, mais je vais le regarder très vite.
On va regarder
vite,
jusqu'à la fin de la journée.
Faites très
et
vite.
Puis, sinon...
Non, en fait, c'est vraiment jusqu'à la fin du show.
OK.
Sinon, ben, contactez-nous, puis si on n'a pas de gagnant, on verra vous recontacter.
C'est bon.
Parfait, ça? Bon. Alors, la prochaine rencontre Citla en France va avoir lieu le 17 avril. Nos amis français se préparent une petite soirée resto-discussion. Pour plus de détails, on vous invite à passer sur les forums de citlan.net et participer même à donner des idées tant qu'à faire pour cette petite sortie qui aura lieu le 17 avril prochain. Le Salon des collectionneurs de Saint-Hyacinthe, ici au Québec, pour revenir de notre côté de l'océan, avoir lieu le 24 et 25 avril prochain. Notre collaborateur Holo Jedi y sera présent.
Avec une table pour vendre ses propres produits et faire un petit peu de publicité pour cette clé.
Exactement. La convention Génération Star Wars 2004 à Cusset dans l'Allier les 1er et 2 mai, samedi 1er mai et dimanche 2 mai. Alors, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Une convention générale sur Star Wars, évidemment, et quelques autres petits...
Qui est gratuite.
Qui est gratuite et qui va valoir le déplacement, j'ai l'impression. Alors, pour des contacts, on vous invite à rejoindre le 06 62 45 55 73 ou par courriel à terchag@yahoo.fr. terchag@yahoo.fr.
On peut mentionner aussi que la Ligue costumée francophone devrait être présente pour ceux qui ça les intéresse.
Toujours très intéressant de partager des idées de comment faire des costumes avec d'autres passionnés de costumes.
Exactement.
Alors, il va y avoir une conférence sur Star Wars à Paris. Pour les plus scientifiques d'entre nous, une conférence sur la physique dans Star Wars se tiendra à l'École nationale supérieure des télécommunications le lundi 26 avril, de 17h à 18h30. La saga cinématographique Star Wars a eu un succès considérable, comme la plupart des œuvres de science-fiction. Elle met en scène des technologies futuristes qui, à l'évidence, dépassent largement les nôtres. Pourtant, certaines réalisations ont un air de déjà-vu. Est-il possible de faire la part de la science et de la fiction, du rêve et de la réalité? Nous allons mener l'enquête en utilisant les outils de la physique pour décrypter certaines scènes des films. Quelle pourrait être l'origine de la force? Comment construire un sabre laser? Quelles sont les caractéristiques de l'étoile de la mort? Où se situe la planète Tatooine? Voici quelques-unes des questions que nous allons tenter d'éclaircir ensemble, et que la force soit avec vous d'ici là. Pour les inscriptions, on vous invite toujours évidemment à passer sur citlan.net pour trouver l'annonce de cette conférence.
Et le 1er avril?
Le 1er avril, pour finir ça bien évidemment. On organise un souper de costumiers ici à Montréal. Alors, le souper est organisé par Snowtrooper et tous nos amis costumiers de ce site-là, pour ne pas les nommer tous parce qu'il y en aurait trop. Le souper aura donc lieu au Moz, situé sur la rue Sherbrooke. Vous prenez donc le métro.
Tout près des studios de Star Wars en direct.
Tout près des studios de Star Wars en direct. Donc, vous pouvez prendre le métro sur la ligne verte jusqu'à la station P9. Vous remontez la côte sur Sherbrooke et vous tournez à gauche. Et passez un coin de rue et voilà, vous êtes rendu au Moz.
Une grande enseigne.
Exactement. Vous ne pouvez vraiment pas le manquer. C'est ce le Moz sur la rue Sherbrooke, le seul qui reste à Montréal. Trouvez-le dans le bottin au Péralé. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à ma question? On va essayer on va vérifier les courriels, voir si quelqu'un connaît la réponse. Combien de tatas ont besoin d'être réfugiés sur une nouvelle planète dans le film Dans une galaxie près de chez vous?
En attendant, je vais commencer à terminer l'émission. Je vous rappelle que ce soir, la version anglaise de l'émission, dans quelques heures, est dimanche à 19h. Qui est le même sujet qu'aujourd'hui, avec quelques bonnies en plus. On va avoir, on va faire jouer un radio-roman d'un univers mixte entre Star Wars et Star Trek, très intéressant, qui a débuté cette semaine. On va aussi avoir en entrevue le réalisateur du documentaire Star Wars, Denis Pirouzan,
en tout cas.
Peu importe.
On va lui demander qu'il nous le prononce
une fois. Exactement. Et puis, le sujet de la prochaine émission devrait être les futures histoires de l'univers étendu. On va faire de la spéculation, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme histoire dans le futur, qui sera le 4 avril, donc la semaine prochaine déjà. On a pas de break, donc directement la semaine prochaine, le 4 avril. Et on va remercier nos commanditaires, bien sûr, siteclan.net, Legend Action Figures et simple-net.ca qui nous hébergent gracieusement. Nos partenaires qui se rajoutent à chaque émission, on a Star Wars Galaxy France, Fan Wars en Belgique, la Ligue Costumée Francophone, Star Wars Universe version light, R2-D2 Menace, Roger One, Camui Web, Anakin Web, Anakin World, Star Wars Connection, Bolton Online, Mos Umbras Vega, Star Wars Holonet, Star Wars Federation. Notez que tous ces liens sont disponibles sur starwarsendirect.com. Je ne vous donne pas les noms de domaine au complet parce qu'il y en a que ce serait
trop long
et pointilleux à tout donner, les tirets, traits d'union, peu importe.
Etc.
Donc, allez sur la page d'accueil et dans la section partenaires, vous avez tous les liens à cet endroit-là. Si vous avez des commentaires ou suggestions, écrivez-nous à l'adresse studio@commercialswendirect.com, studio@commercialswendirect.com. Je vous rappelle que si vous aimez l'émission, parlez-en autour de vous. Le bouche-à-oreille est la meilleure publicité que l'on peut avoir. Donc, sur ce...
Ben, attends, exactement.
Ah, okay.
Alors, il n'y a personne qui a clamé les passes haut et fort. Alors, je vais le dire pour la réponse pour vous. La réponse, c'est 6 milliards de tatas ont besoin de trouver une nouvelle planète sur laquelle habiter.
Et c'est en référence à la population de la Terre, bien
exactement.
Entendu.
Je vais en profiter pour aussi annoncer que le 7 avril, on va avoir la chance d'assister à la première du film The Girl Next Door au cinéma Paramount à 19h30. Surveillez siteclan.net parce qu'il va y avoir un concours pour pouvoir gagner des laissez-passer pour deux personnes. Et,
très bon film. On a fait la critique à la dernière émission.
Exactement. Alors, présentement, j'aurai un laissez-passer à donner à qui le voudrait pour la première du film Dans une galaxie près de chez vous, le mardi 30 mars à 19h au cinéma Quartier Latin. Alors, je vous invite à envoyer un courriel à studio@commercialswendirect.com avec le titre Dans une galaxie près de chez vous et de me signaler pourquoi vous aimeriez assister à la première du film ainsi que de me donner votre numéro de téléphone pour Montréal. Je vous remercie. Je cède l'antenne à mon producteur, Danny.
Et sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
Cette émission vous a été rendue possible grâce à SimpleNet. Que vous soyez webmestre, joueur en ligne ou administrateur de serveur de commerce électronique, chez SimpleNet, nous aurons toujours une solution pour répondre à vos besoins.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsOnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Sir, if you'll not be meeting me, I'll close down for a while.